Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discuter. J'espère que vous allez bien. Merci de cliquer sur mes épisodes. Merci vraiment d'écouter, c'est profondément apprécié. Je sais que c'est des drôles de moments et dans ma vie à moi, ces conversations-là font littéralement mes semaines. Et j'espère que pendant l'écoute, ça vous fait un petit baume sur le cœur, ça vous fait sourire, ça vous fait rire, ça vous fait réfléchir. Je le souhaite sincèrement. J'espère que j'espère que vous avez la santé et que vos proches aussi. Voilà, c'est des petites pensées pour vous, chers auditeurs de J'ai du Temple. C'est la première fois que je vous appelle auditeur. Hein. On dirait que je vous parle. Je vous connais pas, mais je trouve ça cool par contre parce que quand je vous croise, vous me parlez. Je salue la barista du croissant qui m'a proposé un nom d'invité. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, quand les gens me parlent du podcast, je suis vraiment heureux de ça. Fait que c'est vraiment apprécié. Je vous salue, je vous écoute, je vous entends, je vous lis. C'est vraiment merci. Et le podcast, évidemment, c'est un lieu de rencontre pour moi. Et dans le contexte, vous savez à quel point on n'a pas la chance de rencontrer beaucoup de gens de ce temps-là. C'est pourquoi j'en profite pour inviter des gens que j'aime, des gens dont je m'ennuie. Et c'était le cas aujourd'hui de mon invité. C'est un gars que j'adore, que j'admire et que j'aime. C'est un animateur, un disque jockey en devenir. Mesdames et messieurs, voici la conversation extraordinaire et succulente, remplie de nutriments humains que j'ai eu avec le sublime Nicolas Ouellette.
Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ça m'a comme allumé quand j'ai regardé un documentaire sur Annie Mac, l'animatrice de BBC Radio 1, qui a pris la place de Zane dans sa case horaire il y a 5 ans.
Okay.
Puis elle, c'est vraiment une spécialiste de la musique électronique à la base, là, puis la musique dance. Puis il y a un documentaire qu'ils ont fait sur elle en 2016 durant l'été où ils l'ont suivie pendant tout son été, parce que elle, dans le fond, est animatrice de radio, mais est aussi une esti de huge DJ là, en Grande-Bretagne. Annie Mac.
Annie Mac.
Okay. Ça s'appelle The Summer of Dance, je pense.
Summer of Dance, je vais le noter.
Tu checkeras ça, mais c'est, tu sais, moi c'est intéressant parce que je connaissais le personnage, mais on dirait que ça m'a comme allumé de faire « Ah, c'est vrai que dans le fond, tu sais, à travers l'artisanat de faire de la radio,
eh oui,
puis de propager de la musique, il y a aussi la possibilité de connecter en live avec le monde dans cet aspect-là. »
Ben surtout que j'ai l'impression qu'avec toi, ça fait. Je suis persuadé qu'il y a plein de monde en ce moment qui se dit « Ah, Nicolas, t'étais pas déjà un peu DJ? » Tu sais, dans le sens où ça fait tellement partie de ta conversation, ça fait tellement partie de ce que tu proposes sur tes plateformes, dans tes émissions, que naturellement aussi, c'est de ça qu'on parle avec toi. Ouais. Fait qu'on dirait que la conversation est là, il manque juste l'event.
Oh ouais, c'est vraiment juste une culture qu'on a moins ici. En fait, la culture de, tu sais, de la curation musicale associée à l'animateur ou l'animatrice de radio est vraiment moins présente ici au Québec en général.
Ouais.
Dans les radios commerciales,
c'est pas ça.
Je veux dire, tu choisis ce que t'enlèves de ton log, mais tu choisis pas ce que tu joues. T'sais.
Non, exact.
Puis, tu sais, même
à... Parce que j'ai présenté Pitbull l'année passée à Rouge, mon gars, à un niveau là, ouais, que tu peux même pas comprendre.
Non, mais je comprends.
À un niveau que je leur ai dit, à un moment donné, je suis comme... Vraiment, tous les jours?
C'est ça, du top 40, là. Puis c'est une recette, tu sais, mais la recette, ça peut aussi être... Mais je veux dire, ça pourrait aussi être autre chose. Moi, je pense que c'est bien correct, là, tu sais, qu'on crée du médium d'habitude.
Ouais.
À Rouge, puis à Énergie, puis tout ça, puis dans les radios commerciales, mais il y a comme... Ça prend un pendant à ça, puis le pendant, ça peut pas être, avec tout le respect que je leur voue, mais ça peut pas être... Seulement c'est ISM, là, tu comprends?
Ouais,
parce que moi, je pense qu'il y a un craft, il y a un artisanat dans le fait d'animer à la radio, de pousser de la toune, puis d'être un vrai broadcaster, d'être un vrai DJ, puis aussi une qualité à toute ta sélection musicale qui vient avec ça. Puis quand les deux sont ensemble, là, c'est là que tu as un produit qui est supérieur. C'est pour ça qu'on est, c'est pour ça que Zane est aussi populaire.
Hein,
c'est que
Zane Lowe est extraordinaire.
C'est...
Je l'aime, ce gars-là. Là. C'est... impressionnant.
Mais c'est ça, mais c'est, tu sais, c'est parce que ça, c'est ça qui est hot, en fait. Tu sais, c'est que ça a l'air, tout a l'air facile, mais tout est plus compliqué que ce dont ça a l'air. T'sais, moi, c'est ça qui m'a donné envie de pousser encore plus la radio musicale comme je veux la faire. T'sais. C'est de faire... Toutes ces manipulations sont tough. Puis de séparer ton cerveau en 6, puis de faire... Ça va jouer après ça. La transition entre ça va être ça. Je vais tenir un propos de 3 minutes non-stop fucking pertinent sur ce que j'ai à dire par rapport à, je sais pas, là, cet artiste-là, ce qui me fait ressentir, machin. Il y a comme quelque chose, c'est des tentacules.
Mais ce qui est fascinant de lui, en plus, c'est que non seulement il y a toutes ces aptitudes-là, mais en plus, les conversations qu'il est capable d'avoir avec les artistes musicaux sont d'une qualité exceptionnelle. Est-ce que tu as écouté celle avec Kid Cudi?
Oui.
Comment tu trouves l'album? Complet.
J'ai adoré l'album.
J'arrête pas de l'écouter. Et comme It Growed On Me, genre.
Ouais.
Je l'aimais au début. J'étais comme OK. Mais là, c'est comme...
C'est fou parce que moi, je l'ai écouté. La dernière fois que je l'ai écouté, c'était en partant d'ici. J'étais venu faire Black Girls From Laval. Puis je me suis dit, ah, tant qu'à rentrer chez nous, direct, je vais faire un gros détour. En fait, j'ai pas mis de GPS dans mon téléphone. Fait que je suis comme parti. Puis j'ai fait, je vais écouter l'album de Kid Cudi. Puis c'était... Voyons, c'était pendant Hanukkah, puis je suis comme passé, tu sais, dans l'ouest, puis ça. Puis là, il y avait tout, là, je connais pas les noms, c'est que c'est poche, mais il y avait tous les chandeliers, puis tout ça, allumés dans les vitres, puis je sais pas, j'écoutais Kid Cudi, puis il y avait comme une surabondance sensorielle, mais tu sais, ça a fait que l'album est rentré de même.
Ah ouais.
MC.
Gros album.
Ouais, puis la conversation était insane, c'est ça.
Mais c'est en plus, c'est que tu sens que les artistes ont confiance en lui, là.
Puis ils savent dans quoi ils s'embarquent, c'est surtout ça. Pis c'est une convention qu'on n'a pas beaucoup, encore une fois, tu sais, ici, dans du média mainstream. C'est la convention de quand tu vas à cet endroit-là, c'est all out.
La seule place où je trouve qu'il y avait un peu ça, puis c'est pas tant all out, mais où que quand tu t'en allais là, t'étais comme, OK, il faut que j'arrive prêt, c'est genre la soirée, t'es encore jeune.
Ouais, sauf que ça, c'est un sentiment de performance. C'est différent.
C'est pas la même chose.
T'sais, parce que je pense que pour un artiste de la trempe de Kid Cudi, d'arriver là puis de faire, c'est sûr qu'on va parler de mes problèmes d'addiction, c'est sûr qu'on va parler de ma descente aux enfers, c'est sûr qu'on va parler du fait que mes premiers projets n'ont pas eu de succès, mais c'est toujours fait dans le respect. Mm-hmm. Puis dans la volonté humaine de connecter. T'sais.
Est-ce que tu penses que la raison pour laquelle ça a moins lieu au Québec, c'est parce que c'est plus petit, qui fait en sorte que l'entrevue que Kid Cudi a... La conversation qu'il y a eu avec Zane Lowe, oui, toi puis moi, on l'a écouté, et des millions d'autres personnes, mais
d'accord.
Ça se veut quand même plus niché, entre guillemets, dans la mer qu'est les States. Alors qu'ici, j'ai l'impression que si... On va vers quelque chose de vraiment personnel. Après ça, soudainement, on dirait que ça devient the talk of the town.
Je comprends.
Je sais pas.
C'est intéressant. Je le sais pas. T'sais, moi, je pense que parler d'une vérité puis parler de vulnérabilité, c'est universel. Non?
Je suis amplement d'accord. C'est comme je suis hautement d'accord avec toi. Mais je n'arrête pas de me poser ces questions-là.
Ouais, parce que je pense que j'imagine qu'il y a aussi une peur de la conséquence de ce que ça peut avoir quand tu es une personnalité connue de révéler des choses qui sont plus personnelles. Je parle dans notre milieu puis dans notre industrie. Je sais pas. Après ça, tu sais, je pense que la façon dont Zane le fait, c'est toujours fait dans une espèce de respect. Puis aucun artiste que j'ai vu aller en entrevue avec Zane Lowe avec ouverture puis en ressortir avec une image ternie.
Jamais.
Jamais. ça se peut pas. Tu sais, je veux dire, la conversation que tu as eue avec Adib, là, il en distille là, de la vérité là, là-dedans. Là. Puis il a pas peur d'écorcher des gens et un milieu. Moi, puis là, après ça, on pourrait se dire que je vis dans ma bulle, mais des gens du milieu et de l'extérieur du milieu qui font partie de mes réseaux sociaux, j'ai vu personne faire oulala.
Ben non.
Quel propos déplacé.
Non, quand on sent que c'est incarné,
ah ouais.
Je pense que ça passe. Puis moi, c'est tout ce que je digue.
Mm-hmm.
C'est comme, c'est ça que je veux, tu sais, ce genre de conversation-là. Puis, mais des fois, c'est ça, je fais comme, c'est que la ligne entre la vulnérabilité et le potin, des fois, c'est comme...
Je comprends.
Tu comprends?
Mais ça peut pas être... Avec tout mon respect, ça peut pas être les sept à potins québécois qui décide de ce que les artistes ont droit de dire puis pas c'est... le droit de dire.
Ouais, c'est clair.
Puis après ça, je veux dire, je suis pas dans cette posture-là là, d'être une personnalité extra connue puis de voir que tu sais chacun de tes gestes ou chacune de tes paroles est étudié puis peut être rapporté puis twisté dans une histoire qui a aucun sens. Puis je veux pas juger les gens qui sont fragilisés par le fait que ça existe dans leur vie. Mais je trouve ça triste si c'est ça qui dicte le genre de conversation qu'on peut avoir dans la sphère publique. C'est absurde.
T'as raison. Je suis vraiment d'accord. Le pire, c'est que je pense que j'ai une petite peur en moi. Mais je veux jamais plier à cette peur-là. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des jours que je réussis mieux que d'autres. T'sais,
je comprends.
C'est vraiment... Puis après ça, on est fucking chanceux. Là, genre, il n'y a pas de... Il y a le documentaire sur Britney qui sort, puis c'est une réalité qui n'existe pas ici. Il n'y aura pas de paparazzi puis de gens qui vont fucking scraper la vie d'un être humain. Comme j'ai eu cette réflexion-là plusieurs fois. Je sais pas, je l'ai déjà dit ici. Je pense que oui, mais peut-être sur un podcast qui n'est pas sorti encore. Mais j'avais été la voir en show, ouais. Britney, à Fort Lauderdale, au casino.
Ça roule dans la bouche, hein?
Fort Lauderdale. Puis, et ça avait été ça, ma réflexion à la fin du spectacle, de dire, il y a des gens à quelque part qui sont probablement des hommes blancs qui ont vu cette jeune fille-là, ils ont fait, man, on va faire des millions avec elle, puis aujourd'hui, ils s'en lavent les mains, puis ils prennent pas du tout responsabilité. Puis c'est... J'ai pas vu le docu, tu l'as vu?
Non, je l'ai téléchargé semi-légalement.
Ouais, c'est ça.
Je vais l'écouter ce soir. Mais ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est aussi symptomatique dans l'industrie de la musique à cette époque-là. Là. Au début des années 2000, mon gars. Je vais faire référence à un autre documentaire, là, peut-être. Non, je dirais pas ça, mais le documentaire sur Lara Fabian, tu sais, quand elle raconte tout son passage aux États-Unis, puis la façon dont elle a été signée, tablettée, puis larguée, alors que c'était une très jeune femme. Britney Spears avait 16 ans, c'est la même chose. C'est vraiment un monde d'hommes blancs qui ont voulu abuser de leur pouvoir, puis qui ont voulu contrôler une industrie complète. Puis c'était à l'époque où il n'y avait aucun autre vecteur que celui des majors pour avoir ne serait-ce qu'un peu de succès. Le public n'avait pas vraiment son mot à dire sur qui allait devenir ses prochaines vedettes musicales préférées.
Non.
Tout était décidé from the top down. C'est encore beaucoup comme ça. Mais tu peux quand même, si t'es, je sais pas, aux États-Unis ou dans une situation où il y a un petit peu, un volume un petit peu plus grand, avoir 4-5 millions d'écoutes par chanson, puis faire des shows qui sont sold out dans des salles relativement décentes, puis gagner ta vie en faisant de la musique, ce qui n'était pas nécessairement le cas à l'époque.
Mais souvent aussi, je pense que... Tu sais, mettons, c'est un Chance the Rapper, par exemple, ouais. qui était... Mais je pense qu'il vient d'un milieu un petit peu plus fortuné.
Ça, c'est sûr.
Après ça, je sais pas, tu sais, mais c'est ça, je pense que c'était vraiment à l'époque, là, mais tu sais, c'est comme ça fait mal au cœur de penser à ça. T'es comme, fuck.
Ah, puis t'as écrasé une vie, là.
Ah, man.
C'est le quoi, là, pas loin de 40 ans, Britney Spears, tu sais. Dis-toi, de 16 à 40 ans, là, plus de la moitié de sa vie, elle a été contrôlée littéralement comme une marionnette par des gens de son entourage éloignés ou rapprochés, mais par des gens à qui elle aurait dû pouvoir faire confiance. C'est une vie détruite.
C'est fucking deep. C'est vrai, c'est tragique, comme il n'y a pas d'autre mot.
Ouais.
Moi, quand je l'ai vu en show, c'était ça. J'étais comme, oh mon Dieu, je me sentais quasiment mal d'être là. Ouais. J'étais comme, ah, je participe pas à une bonne affaire. C'est un peu exagéré, là, mais
je comprends.
Quasiment ça. Les fans étaient là pour elle, puis la crowd... Pour vrai, était vraiment... je pense que la crowd était là, entre gros guillemets, pour les bonnes raisons.
Ouais.
Mais à la fin du show, j'étais comme, il y a quelque chose de pas...
Non, puis toi, tu fais de la scène. Tu sais ce que c'est que d'être sur scène, puis d'être incarné, puis d'avoir envie d'être là. Si tu poses les yeux sur quelqu'un qui est sur une scène, puis que tu sens qu'il y a une déconnexion entre ce qui t'est présenté puis ce que ça devrait être, you know, là, tu sais, cet instinct-là, je pense pas qu'il trompe.
Non, absolument. Toi, l'appel de la scène, est-ce qu'il y a un peu de ça dans le DJ ou c'est vraiment la rencontre?
Ah, c'est 100% la rencontre.
Yeah.
100%. Il y a pas... Tu sais, je l'ai dit souvent, là, moi, je vais rester un artisan toute ma vie. Je suis pas... Tu sais, je suis pas un artiste, là, proprement dit. Je suis vraiment un artisan. Tu sais, fait que pour moi, jouer avec des machines puis avoir des gens puis être le conduit, c'est ça mon but dans la vie. C'est d'être le conduit entre une forme d'art... La musique, ça pourrait en être une autre dans un autre contexte, mais dans ce cas-là, c'est la musique, puis les gens, c'est ce qui m'importe le plus. être le conduit entre l'artiste puis le public, c'est ce qui m'importe le plus, tu sais. Puis c'est Zane Lowe justement qui disait ça, tu sais. T'es un conduit entre la musique puis les gens. Quand le conduit puis le lien est fait, get out of the way. Puis c'est ça qui est important. Moi, pour moi, c'est ça. Là. C'est pour ça, quand je fais de la radio puis que j'envoie des tunes aux gens, une fois qu'ils font « Mon Dieu, je capote sur la tune, mon travail est fait. J'ai plus besoin d'être là puis de faire « Non, mais vous comprenez pourquoi vous aimez cette chanson. Don't care. La chanson s'est rendue jusque dans tes oreilles. Ça t'a fait vivre quelque chose. I'm out. » Vous me rappellerez quand vous aurez besoin de mettre quelque chose d'autre dans votre playlist. Tu comprends?
Comment tu fais pour équilibrer, mettons, la découverte musicale et les tunes que t'aimes, que tu réécoutes? Est-ce que tu as l'impression... Moi, des fois, je me couche le soir, je fais « Hostie, si je pouvais continuer d'écouter de la musique pendant mon sommeil, ça m'aiderait. »
Moi, je vais vraiment au feeling. Il y a des matins où je me lève, puis je suis comme... J'ai besoin d'écouter ceci en ce moment, puis c'est ça que ça va être pour une durée donnée. Puis il y a des moments où... Il y a ce craving-là de vouloir aller découvrir des nouveaux trucs. Puis là, ce qui est bien, c'est que je sais où aller pour potentiellement tomber sur ma prochaine chanson favorite. Puis moi, je suis encore un old schooler qui écoute la radio tout le temps. J'écoute Zane Lowe à midi la plupart du temps quand c'est possible. Puis quand je fais à souper le soir, je rattrape l'émission d'Animac à la BBC. Puis normalement, je fais quand même des longs soupers là, la semaine. Fait que normalement, j'ai le temps d'écouter au moins 1h30, 1h45 des épisodes. Fait que j'ai toujours à chaque jour ma source pour pouvoir au moins écouter des nouveaux trucs puis voir ce qui s'est passé dans la journée en termes de musique. Puis des fois, ben, je pars dans des spirales quand j'ai le temps. T'sais. Écoute un autre truc. Puis là, moi, j'ajoute aussi beaucoup de chansons dans des playlists qui sont très, très bien catégorisées. Là, mes playlists privées où je sais où aller pour écouter ou redécouvrir quelque chose que j'ai écouté d'une oreille inattentive, puis je me suis dit « Ah, il me semble que je vais aimer ça, faudrait que je réécoute ça », mais la musique, c'est une question de contexte. Fait que souvent, j'entends des trucs, je sais cérébralement que je peux aimer cette chanson-là, mais le moment où je l'écoute est pas le bon. Fait qu'il faut que j'y revienne, puis souvent, on n'y pense pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut... C'est très organisé, oui, ma façon de découvrir de la musique.
Mais le pire, c'est que une fois que les playlists sont bien organisées, c'est très satisfaisant après.
100%.
Ça simplifie la vie, là.
Complètement.
C'est... Moi, j'en ai une qui est bien organisée. J'en ai deux qui sont bien organisées. C'est une qui est plus hip-hop, que j'écoute majoritairement au gymnase.
Ouais.
Et après ça, mes tunes favorites, mettons, que j'essaie de garder à 50.
Ah, c'est bon. Moi, ça, par exemple, les gens qui sont capables de faire des playlists concises, je trouve ça fabuleux. Moi, grâce à Spotify, étant donné que tu sais quand t'as ajouté la chanson à la playlist, c'est plus facile pour moi d'aller me retrouver là-dedans. Mais j'ai bien de la difficulté à retirer des chansons d'une playlist.
Moi, c'est parce qu'à force de l'écouter, à un moment donné, ça devient super évident. C'est comme, ah, je la skip tout le temps.
Ah ouais, OK, je comprends.
Fait que je fais comme, ah, c'est pas que j'aime pas la tune, elle est pas à bonne place, je pense. Mais je suis vraiment moins organisé que toi, c'est sûr. C'est sûr. J'en ai juste deux pour l'instant.
C'est il y en a beaucoup.
J'écoute tes playlists publiques.
C'est vrai? Ah ouais, tant mieux. Absolument. Genre, c'est ça, tu sais. Mais c'est clair, là, moi, tu vois, c'est des playlists de moods, tu sais. Fait que pour moi, c'est clair qu'est-ce qui s'en va où. Puis tu vois, même mes playlists publiques, je les mets à jour moins souvent que mes playlists privées. J'y pense moins des fois, on dirait. Puis c'est bizarre, mais c'est comme une affaire d'été, moi, mettre à jour mes playlists. Pas pourquoi. Anyway.
Je peux comprendre. Je sais. Moi, je suis pas assidu là-dessus.
Ouais, ouais.
Pas assidu du tout. Mais quand je tombe sur des playlists qui sont... Quand je rentre là-dedans, mettons, là, puis je commence à jouer là-dedans, là, c'est un trou sans fond. Puis quand tu fais Union Libre,
ouais,
est-ce que pour toi, c'est ton équivalent de ce que Zane Lowe et Animac font, mais ta version à toi?
Ouais, c'est ça l'inspiration à la base avec Alex quand on a décidé de créer Union. C'était à l'automne 2015, je me souviens, ça faisait longtemps qu'on se parlait de ça. Puis on écoutait Zane Lowe depuis déjà un bon moment. Puis on était tout le temps en train de se parler de « As-tu écouté ça? As-tu entendu ça? La transition, machin? » Puis on geekait littéralement, non seulement sur les chansons, mais sur le médium lui-même. Puis à un moment donné, on s'est dit, il n'y a pas cet équivalent-là dans notre univers. Puis tant qu'à le vivre en privé, aussi bien le faire de façon public, même si c'est pour pas beaucoup de monde, soyons honnêtes, mais faisons-le de façon publique, puis raffinons aussi cette façon-là de faire de la radio, de travailler le micro, de travailler la diffusion, de travailler la programmation. Puis ça a été un apprentissage là, au fur et à mesure de faire les choses, juste comment faire qu'un micro sonne comme tu veux qu'il sonne, comment arranger les machines pour être capable de faire les transitions que tu veux, comment, tu sais, ça a été un apprentissage au fur et à mesure, mais oui, c'est 100% l'inspiration de cette forme de radio-là, là, complètement.
Si vous êtes, moi, j'ai pas la patience du matériel.
Mais c'est parce qu'on... C'est ça que je pensais à ça cette semaine, parce qu'il fallait que je sorte un truc, puis... Ça s'est fait tellement progressivement que je me suis pas vraiment rendu compte que j'ai appris à travailler avec mes machines. Tu comprends? À un moment donné, j'entendais un truc, puis là, je me disais, hey, comment il fait ça, cet effet de filtre-là, quand il joue une tune, puis là, il veut se mettre à parler par-dessus. Cherche, trouve. Ah, c'est un skill de plus à mon bagage. Après ça, c'est faire de l'habillage. Comment ils font cet habillage-là, leur habillage d'ouverture, leurs identifiants, les transitions, c'est quoi les packages de sons qu'ils sont allés chercher. Parle à une telle qui fait, va voir sur tel site, tu vas trouver sûrement des plugins puis des trucs. Fait que là, tu mets ça dans ton baluchon, puis à un moment donné, tu finis par juste avoir tous les référents nécessaires pour effectuer les nouveaux trucs que tu as envie de faire. C'est ça, je me suis jamais rendu compte que j'ai appris à travailler avec mes machines, puis on dirait que moi, je suis un gars de... Il y a un problème, je trouve une solution. Tu me suis, c'est... Ouais. T'sais, j'ai envie de faire quelque chose, je sais pas comment le faire, je vais trouver comment le faire, je vais l'exécuter, mais peut-être que si tu me demandes un mois plus tard, « Hey, comment t'as fait ce truc-là? » Ça se peut que je sois pas capable de te l'exécuter. Je suis dans l'immédiat. Dans la solution immédiate.
En mode solution. Je suis très en mode solution, mais pas... J'évite les situations inconfortables. J'évite les situations où je suis pas bon. Fait que je vais être en mode solution pour ce qui est de plus ce sera pas genre ah ça prendrait un cadre chez nous, mais je vais aller chez trouver une image, je vais aller chez un encadreur. Ça jamais que je vais le faire. Je vais croiser les doigts qu'un jour quelqu'un va avoir la générosité de le faire pour moi. Fait que je suis super paresseux pour ça, mais pour ce qui est d'un feeling ou t'as quelque chose qui me passionne, ouais. Là, on dirait que je vais être je suis qu'en mode solution.
Je suis. Mais c'est intéressant, ça, l'idée de se tenir loin des choses dans lesquelles on n'est pas bon, mais dans lesquelles on se sent pas apte, en fait.
Ben, en fait, ce matin, j'essaie d'écrire du nouveau matériel.
Ouais.
Et là, j'ai pas de joke, là, mais j'ai trouvé un angle, on dirait que je suis comme, j'ai confiance en moi, mais j'ai une estime personnelle fragile. Qui fait que j'ai la confiance en soi, c'est par rapport à tes actions.
Ouais.
Qui fait que j'ai fait le Sandbell, j'ai produit un one-man show, j'ai un podcast, j'en ai maudé, je fais des choses. J'ai confiance en mes moyens, mais j'ai une estime personnelle fragile. Je veux pas qu'on me critique.
Ah.
Je veux pas savoir ce que les autres pensent de mes affaires parce que je suis pas capable de faire la distinction entre ce que je fais et ce que je suis.
Oui, mais c'est parce que c'est ça, en fait. T'as une estime personnelle fragile parce que si cet aspect-là personnel de ta vie est affecté, ça percole directement dans la confiance en toi-même qui te permet d'agir puis de tenir à bout de bras tes projets.
C'est exactement ce que j'ai écrit.
C'est ça, mais c'est ça qui est dur.
Ouais.
Puis c'est le plus grand défi pour n'importe qui, là, faire la séparation entre ce qu'on est puis ce qu'on fait. Puis c'est drôle que tu dises ça, parce que hier, un peu plus tard qu'hier, si on rentre dans le plus personnel, tu sais, j'avais pitché des projets, finalement, deux réponses négatives coup sur coup. Puis là, je disais à ma blonde, je le sais que c'est pas personnel, mais il y a une partie de moi qui le prend personnel quand même. Tu comprends? Parce que je le sais qu'il y a tellement d'éléments dans une décision derrière le fait te faire dire « Hey, ça marchera pas pour X, Y, Z raison », que c'est probablement pas en lien direct avec qui je suis comme personne ou qui je suis comme artisan. Mais il n'en reste pas moins que quand t'as passé du temps à travailler sur des trucs qui, pour toi, sont des choses qui sont importantes à tes yeux puis à ton cœur, de te faire dire non, c'est sûr qu'il y a une partie de tout ça qui percole jusqu'à « Hey, c'est-tu moi qui est inadéquat
Mais c'est
dans
sûr,
cet écosystème-là.
C'est sûr qu'on pense comme ça. C'est exactement ce que j'écrivais ce matin dans mes réflexions. Parce que j'étais comme, je veux pas me faire critiquer parce que même si je suis en train de dire, ah, je peux écrire d'autres jokes. Mm. Notamment pour moi, que c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui a joué, c'est moi qui a fait. C'est Chris, ça fait que ton projet, c'est probablement, ça part de quelque chose
c'est
que
sûr.
De tes tripes, de ton intérieur, de toi, de tes réflexions, de tes désirs, de tes passions, de ce qui t'anime. Puis, ta vulnérabilité, tu l'offres en disant, tu sais, ce serait extraordinaire qu'on. Et finalement, on te ferme la porte. Naturellement, puis c'est correct de sentir quelque chose, puis après ça, de l'intellectualiser, puis de faire, hey, attends, moi, je sais que mon sentiment va pas s'effacer rapidement. T'sais.
Moi, tu vois, je me force rapidement parce qu'on est dans un milieu où le refus est constant.
Ouais.
Je me suis dit, ça va toujours être la règle des 24 heures. Il m'arrive quelque chose, une mauvaise nouvelle, je regarde l'heure à laquelle j'ai reçu le courriel, la nouvelle ou l'appel, je me mets une alarme, puis le lendemain, à cette heure-là, c'est fini.
J'aime ça!
Pas le choix.
Tu mets une alarme?
Ouais, t'as pas le choix.
Fucking right.
Puis après ça, il y a des gens qui vont dire, tu sais, c'est sûr que ça va continuer à me suivre, mais l'idée de... on va dire de l'apitoiement, là, mais tu sais, de la vraie tristesse puis de la vraie déception, il faut que je prenne la décision consciente de les stopper à un certain point.
Ben, en même temps, tu dis que tu es en mode solution et ça, c'est très...
Ouais.
Moi, je suis un peu comme toi à ce niveau-là. Je suis pas très fort sur m'apitoyer sur mon sort. Mmh. Après ça, ça fait partie de ma personnalité, donc c'est peut-être plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre qui a un réflexe qui est différent, tu sais. Mais... moi, souvent, ce qui va briser un mauvais feeling, mais j'aime l'idée du 24 heures.
Ouais.
Parce que tu te permets aussi une fenêtre de comme, hey, ça.
C'est hyper important, je pense.
C'est ça. Moi, c'est souvent le réflexe, là, c'est quand j'ai un bad feeling qui monte, après ça, je culpabilise par-dessus. Je voudrais pas faire subir ça à quelqu'un d'autre, que j'ai une face désagréable.
Je comprends.
Fait que là, je suis comme. T'sais, j'ai une face, puis après ça, je me dis, asti, j'ai une face.
Mm.
Puis là, je panique plus juste pour ce qui se passe, je panique que ça se passe. Asti.
Parce que tu veux pas être cette personne-là dans la vie des gens autour de toi.
Exactement. Et là, si j'ai le malheur de vivre ça avec des gens qui me connaissent pas beaucoup, en qui j'ai pas confiance, là, je peux partir loin. Je suis rendu vraiment moins pire, mais là, je peux faire, asti, eux autres, s'ils me connaissaient juste de la télé ou de whatever, peut-être qu'ils avaient une idée de ce que j'étais. Là, je suis pas en train d'être funny, je suis pas en train d'être le fun. Est-ce que dans le fond, sont déçus? Là, je fais, hey man, time out. Genre. Et moi, ce qui va briser ça, ça va être bouger. C'est les journées où j'ai rentré deux trainings d'une journée. C'est des mauvaises journées qui deviennent des bonnes journées.
Je comprends. Je comprends. Mais pour vrai, je pense que c'est important. Tu sais, moi, c'est pour ça que le 24 heures, il existe. Parce que c'est important d'avoir cette fenêtre-là aussi pour vraiment prendre le temps de vivre ce sentiment-là de déception puis de tristesse. Puis qu'on dirait c'est qu'on... Il y a comme une philosophie où il faut transformer les citrons en limonade puis il faut que ça se passe de façon instantanée. T'sais, comme la résilience instantanée, la résilience automatique puis être capable de faire « c'est pas grave, c'est comme ça qu'on se définit à travers nos échecs ». Tout ça est vrai, mais ça élimine pas le fait que du moment où tu as une mauvaise nouvelle... tu vis un sentiment de profonde tristesse et de déception qui mérite d'exister pendant une certaine période puis qui mérite d'être extériorisé aussi. Puis de nier cette affaire-là, je pense que c'est plus nocif qu'autre chose parce que c'est juste une accumulation. Puis on dirait que la seule chose qui peut faire que cette déception-là accumulée s'élimine, c'est que t'aies une bonne nouvelle ou la résultante que t'attendais. Mais ça se peut que ça arrive jamais. Fait que si tu gères pas cette affaire-là, ça se peut que... ça déborde, comme on dit.
Ouais. Je suis vraiment d'accord. Mais c'est constamment à refaire. C'est un travail sans cesse parce qu'il y a des événements, des fois, que t'es comme, ah, je l'ai bien fait.
Mm.
Je l'ai vécu, je l'ai exprimé, j'ai pris les moyens pour passer par-dessus. Et t'es comme, all right. Là, tu penses, en tout cas, moi, des fois, je pense que je suis comme, parfait, j'ai eu mon diplôme. Le gars qui sait gérer ses émotions. Et là, arrive quelque chose d'autre, d'un autre contexte, puis à un moment donné, c'est comme,
ah, si,
Christ que je le gère. Je pensais que j'avais je pensais que j'avais mon diplôme.
Mais c'est toujours à recommencer, cette affaire-là. Tout le temps.
Je suis en train de lire le livre de Barack Obama.
Ah ouais, OK.
Et je pense que c'est une des affaires que j'admire le plus chez lui, c'est sa constance.
Mm.
Toujours les yeux s'amirent. Puis... du moins, en tout cas, c'est son autobiographie, là, fait qu'on s'entend, là, tu sais, mais je le connais pas personnellement, mais de ce que j'observe de lui, c'est... Moi, je... Des fois, je suis comme asti que je suis sanguin. Christ que j'ai. Je suis intense. J'ai les dents serrées. Pour le meilleur et pour le pire.
Exact.
Mais quand c'est pour le pire, c'est plate des fois, tu sais. Mais en même temps, tu sais, là, il faut que tu te rappelles. Oui, mais le meilleur est là aussi, tu sais.
Ah ouais.
Et lui, j'ai l'impression que, tu sais, moi, ça va être plus comme ta, 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 ta. Et lui, j'ai l'impression qu'il est juste comme c'est là qu'on s'en va, puis on va s'y rendre.
T'sais. Mais ça vient avec une discipline de fer, probablement. Tu sais, mental, psychologique, physique.
Faut peut-être grandir en Indonésie aussi.
C'est ça. Ça vient peut-être aussi avec une certaine forme, tu sais, de négation du bruit extérieur qui peut des fois être nourrissant puis qui peut être distrayant à certains moments. Puis par rapport au fait des mémoires puis des gens qui racontent leur propre histoire, pour moi, il y a quand même quelque chose là-dedans qui est... Tu sais, pour... Après ça, je l'ai pas lu, son livre. Puis après ça, je pense que Barack Obama, c'est une personne exceptionnelle. Mais tu sais, souvent, pour moi, les gens qui racontent leur histoire a posteriori, on crée notre propre narratif aussi à quelque part dans la vie. Puis c'est ce qui fait qu'on survit dans le présent. Puis c'est ce qui fait qu'on survit dans le futur, dans le sens où on n'a pas à penser peut-être aux écarts de conduite ou aux écueils qu'on a eus dans notre vie. Fait que bref, ce que je dis, c'est qu'il faut en prendre puis en laisser.
Mais c'est que
j'ai
c'est
l'impression.
Absolument, absolument. Puis encore plus, moi, ce que je trouve le plus, pas difficile, mais encore plus en politique, parce que t'as tout le temps une espèce de doute de comme, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Mm. Est-ce que c'est la vraie affaire? Est-ce que j'ai accès à la vraie? Il y a tellement d'informations puis de choses qui se disent sur ces personnes-là que tu finis le temps par faire comme, il y a tout le temps un petit doute. Puis c'est tout le temps une affaire de contexte.
Ah ouais.
C'est tout le temps une affaire de contexte. Puis c'est une des affaires que j'aime de vieillir, en fait. C'est que, mettons que je me replonge dans le secondaire, tu sais, je suis comme, j'ai un peu oublié.
Mm.
Tu sais, je sais pas toi, ta mémoire, comment elle fonctionne, mais moi, j'étais un peu comme, c'était un peu un blur. Je me souviens de moments.
Exact.
Que, asti, le feeling, c'était ça, me semble. Ça revient beaucoup avec la musique. Moi, tu me parles du Dead Cab for Cutie, j'étais en secondaire 4, là, tu sais.
Ouais.
Puis. Je me souviens comment je me sentais à telle place, mais je me souviens pas tant que ça de l'événement, tu sais. Puis des fois, faut pas oublier le contexte, parce que c'est facile après ça de look back. Enfin, j'aurais dû faire ça, parce que comme Chris, je sais bien plus d'affaires aujourd'hui qu'à l'époque.
Non, c'est réécrire sa propre histoire en rétrospective. Je pense que c'est un peu la pire affaire, parce que à quelque part, ça t'empêche d'avancer. Puis j'ai pour mon dire que ce qui a été vécu a été vécu pour une raison, sans être trop ésotérique. Là,
ouais.
Je pense que c'est la base des choses. Mais ensuite, l'autre fois, je sais pas, j'étais sur un autre podcast, puis c'était avec Pino. Puis Pino, il me demande qu'est-ce que t'aimes. T'arrives au ciel, Saint-Pierre est là, qu'est-ce que t'aimerais qu'il te dise? Puis spontanément, ma réponse a été « J'aimerais ça qu'ils me disent que c'était exactement comme ça que ma vie devait se passer. » Tu comprends?
Oui.
Parce qu'au bout du compte, c'est ça, la réalité. La réalité, c'est que ce qui fait qu'on doute, ce qui fait qu'on vit de l'anxiété par rapport aux décisions qu'on prend, ce qui fait qu'on est angoissé souvent par rapport à nos vies personnelles puis à nos vies professionnelles, c'est qu'on imagine l'autre branche.
Mm-hmm.
On est à la fourche, puis on se dit « Ah, peut-être que la vie aurait été meilleure si j'avais pris l'autre branche, j'avais emprunté l'autre fourche, j'avais pris l'autre virage. » Puis à la fin, si tu te fais dire « Hey non, pour vrai, ça devait se passer de même », pour moi, c'est ça la vraie paix d'esprit. C'est que tu fais « Hey, tous les moments où j'ai été, où j'ai douté, il n'y avait pas d'autres options. » Même si ça m'a mené à une situation de fucking marde, il n'y avait pas d'autres options. C'était ça. C'était comme ça que ma vie devait se passer. Puis moi, je trouve que d'avoir cette réflexion-là puis de se dire que c'est de même. Puis peu importe, là, tu sais, oui, c'est vrai que tu aurais pu prendre cette décision-là puis tu serais devenu millionnaire. Tu aurais pu acheter des bitcoins en je ne sais pas quelle année puis devenir millionnaire. Ah, tu ne l'as pas fait.
Exact.
C'est tout.
Exact. Exact. La seule affaire qu'on contrôle, puis moi aussi, des fois, je suis comme, asti, ça sonne un peu ésotérique, mais... La seule affaire qu'on contrôle pour vrai, c'est ici puis maintenant.
Exact.
Si là, tu faisais « Hey man, ça me tente plus », puis tu te levais puis tu crissais ton camp, il y a une petite partie de moi qui est comme « Ultimement, il est libre, man, il fait ce qu'il veut. » Tu sais, comme... Puis c'est rassurant de savoir aussi que le futur est comme ça. Dans le sens où,
ah ouais.
Parce que plus tard, même si on vit de quoi, on n'a pas le contrôle.
Mm.
On a le contrôle sur quelques affaires. Mais on n'a pas le contrôle sur tout. Qui fait que, ben, admettons que... Moi, j'ai la chance aussi de ne pas être très prévoyant dans la vie.
Okay.
Qui fait que, naturellement, je suis un petit peu plus ici maintenant que dans le futur. J'ai la chance d'être comme ça. Je suis pas... J'ai pas travaillé si fort que ça. Pour
c'est le même.
Vraiment, c'est plus de même. Je suis très short term, tu sais. Mais il y a des gens... Tu sais, je parlais avec ma soeur cette semaine qui, elle, là, c'est comme... Elle prévoit les trucs, puis elle organise parce que elle veut tout le temps être à son plein potentiel. Puis je trouve ça magnifique. Mais ça fait aussi que, des fois, c'est comme, ah, si ça pourrait aller, si ça se passe pas comme tu veux,
ouais.
T'es deux fois plus déçu. Puis là, ben, c'est comme, mais il y a quelque chose de comme, on traverse ça, le pont rendu à rivière. Il y a quelque chose de.
Pas le choix.
On n'a pas le choix, ouais. Tu sais.
Ah ouais. Je pense que c'est la plus grande question de... Et je vais dire, je dirais pas de ma vie, là, mais ouais, de ma vie, cette idée-là. Tu sais, l'idée de... Est-ce que toutes les décisions que j'ai prises se devaient d'être prises? Est-ce que le chemin que j'emprunte en ce moment, c'est le meilleur chemin que je pouvais emprunter? Est-ce que j'ai fait des compromis que j'aurais pas dû faire ou est-ce que j'ai pris des décisions radicales qui m'ont empêché d'accéder à quelque chose de peut-être plus libre? Mais, tu sais, we'll never know.
C'est ça l'affaire. C'est ça.
Puis il y a tellement d'interventions aussi extérieures. Tu sais, souvent, je pense à ça. Tantôt, on parlait des projets, mais tu sais, il y a tellement d'interventions humaines qui fait que tu vas avancer ou pas. Il y a tellement d'interventions... d'interactions, de relations, de moments, d'incidents, d'accidents qui font que les choses arrivent ou pas, qu'à un moment donné, ça devient overwhelming de juste essayer de penser à comment tu aurais pu mieux contrôler ou mieux t'abandonner dans la vie que t'as menée.
Est-ce que tu penses aussi qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans, justement, de la performance de faire, de que chaque moment soit optimal, que chaque situation soit la meilleure situation. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben, je sais pas si c'est une question de performance comme en termes d'exécution, mais c'est clairement une question de performance en termes d'adéquation avec mes valeurs puis mes ambitions. Puis je pense que ça, pour moi personnellement, ça sera toujours le combat le plus... ou l'enjeu le plus présent dans ma vie, tu sais. C'est que t'as envie d'un côté de faire des choses, d'avoir des opportunités, puis d'un autre côté, tu veux pas faire de compromis sur ce que t'es, ce que t'as envie de dire, comment t'as envie de le dire. Fait que ouais, c'est sûr que cet enjeu-là, ouais, il y a un enjeu de performance, ouais.
Je sais pas, c'est... Mettons, j'étais en voyage l'année dernière, puis à un moment donné, j'étais comme... Je sentais que j'étais en performance dans mon voyage seul, parce que j'étais comme... J'arrêtais pas de me dire, Chris, je suis bien venu loin pour jouer aux cartes. Tu sais, comme.
Ah, ouais, je comprends.
Tu comprends?
Ouais.
Alors que je fais. Puis à un moment donné, j'ai eu la conversation avec mon partenaire de voyage à dire justement comme. J'ai réalisé, j'ai fait. Asti, là, je me juge dans l'anecdote que je vais peut-être raconter à quelqu'un alors que je peux vraiment dire. Ouais, j'étais allé en Nouvelle-Zélande jouer aux cartes. Puis c'était comment ton voyage? C'était bien correct.
C'est ça.
Puis who fucking cares? Genre, puis je le savais avant de partir en plus. Parce que les gens hypaient mon voyage. Asti, man, ça va être malade. Tu pars tout seul. Asti, meilleure. Puis j'avais peur à chaque fois que les gens hypaient, parce que j'étais comme, j'adore ma vie ici. Je suis confortable ici. Ma vie est le fun. Je fais des shows, je vais au resto. Mes amis sont fucking nice, sont drôles, sont intéressants, ils m'animent et je fuis rien du tout. Je suis un gros plein de merde. Ma vie est géniale. Je suis vraiment chanceux et je me suis forcé. C'est là où je suis content, je pense, d'avoir ce réflexe-là. Je me suis comme forcé à me mettre d'une zone plus inconfortable.
C'est ça, sortir de la zone de confort.
Puis on s'entend là. Ouais. En gros guillemets ici, là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas tout abandonné, j'ai pas fait un Into the Wild. Là.
T'as pas vendu ton chien, ta femme, ta maison, ton terrain.
Non, exact.
Abandonné ta carrière.
Non, c'est ça.
T'es parti.
Je suis juste, j'ai payé pour avoir une van bien adéquate, puis fucking chanceux, là, tu sais, on le mentionne, mais je savais aussi que là-bas, ben, je suis comme, ben, j'ai pas ma sœur qui organise ma vie, j'ai pas ma mère qui m'aide à payer mes comptes, j'ai pas telle personne qui m'aide à si ça, ça, je suis juste tout seul en my own, tu sais, puis à un moment donné, c'est ça, j'étais comme, asti, je pense que je suis en performance dans mon voyage.
Tu sais, c'est important, je pense, dans la vie, de sortir de sa zone de confort, mais c'est important de pas vivre sa vie pour la raconter.
Exact. Pis, j'ai dormi... Est-ce que je t'ai coupé?
Non, vas-y.
J'ai dormi la première nuit. Vu que j'avais jamais dormi, j'ai déjà dormi d'un hostel avec un ami. Ouais. En 2016, on avait voyagé. Pis ça. Mais j'ai jamais été dans un hostel tout seul. Pis tout le monde me dit, ah, tu vas à un hostel, tu rencontres du monde, man, tu prends une bière, pis c'est parti. Je m'en vais en Nouvelle-Zélande, j'atterris à Auckland. C'est comme si j'atterris à Montréal, je vais dans un hostel à Montréal, comme on n'est pas à Bali. Là. Tu sais, comme, c'est pas ça, là. On n'est pas à Hanoï ou je sais pas quoi, là, tu sais, mais je suis pas en Asie. Là, tu sais. Puis j'ai une van dans laquelle je peux dormir.
Ouais.
En plus, mais je suis comme, non, je vais dormir deux nuits dans un hostel. Encore une fois, inconsciemment, j'ai checké, j'ai pensé après. Peut-être fallait que je me le prouve à moi aussi.
Aussi.
Et book l'hostel, et je te jure, je suis arrivé. Puis j'étais comme, I'm too old for this.
Oui, comme, c'est sûr.
Dude, j'ai habité tout seul de 22 à 26, tu sais, encore aujourd'hui, comme, mais dans un appart, mettons, pendant 5 ans, je sais c'est quoi dormir d'une place pas tout à fait propre, là, tu sais.
Oui, puis c'est pas dit que t'as besoin de faire ces rencontres-là non plus.
Exact. Puis j'étais arrivé, puis j'étais comme, c'était inconfortable in a way que je fais, j'ai rien à apprendre ici.
Je comprends.
La seule affaire que je sais, c'est que je suis comme, je sais pas, il y avait quelque chose de faux, il y avait quelque chose de...
Mais c'est aussi qu'arriver dans ce genre de situation-là avec la pression qu'il se passe quelque chose, c'est pas mal la pire façon d'y arriver. Parce qu'au bout du compte, tu te pointes là, tu fais, j'ai besoin d'un endroit où dormir, tu vas dormir là, puis il y a quelqu'un qui fait, hey, by the way, mon nom c'est Olivier. Benjamin. Puis on va au bar avec d'autres mondes ce soir si ça te tente. Puis qu'il y a des choses qui se passent, tu rencontres du monde, tu passes une soirée, tu retournes te coucher puis tu repars dans ta van. Why not? Mais là, d'arriver à l'auberge de jeunesse puis d'être comme là,
c'est que t'observes.
Il va se passer de quoi.
T'observes chaque personne.
Oui, c'est
peut-être lui, Benjamin.
Exact. Puis là, tu demandes comment approcher le monde. Puis.
Si!
Tu sais, je suis en train d'écouter un podcast en ce moment qui s'appelle Dead Eyes. Puis je me souviens plus qui dit ça, mais il dit. C'est John Hamm de en tout cas on s'en reparlera, mais il dit, tu sais, trop vouloir des fois ça devient vraiment moins sexy. Puis lui il parle dans le milieu des acteurs, des comédiens en audition, mais dans une situation sociale qui est un peu le même genre de rapport de séduction, c'est vraiment ça aussi.
Il y a rien de plus attrayant que quelqu'un qui semble ne pas avoir besoin de toi.
Exact,
c'est fucked up. Moi, ma grande sœur, on parle beaucoup dans la vie. Je suis moins pire avec le temps, mais on est loud. S'il y a du monde, on va rire. Sarah, notre petite sœur, force fucking tranquille.
Mm.
Elle a grandi avec nous autres aussi. C'est comme, yo, les deux fucking loud.
Know your place.
Fait qu'à un moment donné, c'est comme, mais on va laisser. Je vais jaser tantôt. Comme, mais elle a développé une espèce de charisme naturel, de force tranquille, de genre, elle, dans le coin, elle a fucking pas besoin de personne.
Mm.
Puis on a toute envie de chiller avec elle, tu sais.
Mais tu sais ce qui crée ça, puis je sais pas si c'est le cas de ta sœur, mais c'est aussi les gens qui ont un dialogue intérieur très vivant, très fort. Tu sais, moi, je sais que dans des situations sociales, à part avec des amis super proches, en général, je reste pas mal en silence. Puis j'aime beaucoup la solitude aussi. Puis au départ, je pense que le monde trouve ça étrange, vu le métier que je fais, puis vu qu'on n'est pas, je pense, éduqué à ce qu'on porte en soi une capacité d'extraversion puis une capacité d'introspection. Mais moi, j'en parlais avec ma blonde, je suis tout le temps en train de me parler. Tout le temps. J'ai constamment une conversation avec moi-même. Puis je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, la conversation est constante. Puis quand il y a personne dans la maison, je me parle tout seul. Puis je suis vraiment nourri par ça. Puis quand j'ai besoin d'avoir un avis extérieur ou quand j'ai besoin de bander des affaires, je sais que je peux le faire, mais je sens pas le besoin constamment d'exprimer tout haut ce que je vis, ce que je pense, ce que je ressens, parce que mon dialogue intérieur me satisfait relativement bien.
T'as-tu toujours été comme ça? Je
pense que oui.
Moi, c'est ça que... Moi, des fois, je me parle beaucoup aussi, mais mon corps, on dirait qu'il entend pas. Fait que ma tête est comme, mettons, change de face, voyons, il y a rien là, nanana. Ma tête est fucking consciente, elle est là, elle est on. Puis des fois, là, je suis comme, hey dude, fuck, je chante du reggae. Fait que comme, c'est chill, là. Puis mon corps est juste comme, fuck that. Ouais. Non, man. Puis là, des fois, je fais, asti, je suis fou, Chris. Je suis fou, man.
Je comprends.
Parce que, puis c'est ça, Mané, c'est que je finis par faire tout le chemin à moi tout seul. Ouais. Qui fait que si quelqu'un me dit quelque chose, je fais, ben oui, je le sais. Mais c'est comme, ouais, mais la personne veut juste s'exprimer que t'étais désagréable. C'est normal.
Je comprends.
Mais je suis comme, si tu me le dis, là, c'est. Tu sais, c'est comme, ah, tabarnane. Maudit fou, Carlis.
Ça build.
Ouais.
Mais ouais, pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, c'est l'idée de vivre sa vie pour la raconter, je pense que c'est aussi une situation très, très de notre ère. T'sais. L'idée de constamment faire des choses pour pouvoir être validé socialement par le monde qui nous regarde. Puis c'est dur, je pense, de se défaire de cette affaire-là aussi dans la vie. Puis c'est pour ça, je pense, puis ça revient un peu à l'idée du dialogue intérieur dont on parle depuis tantôt, mais c'est pour ça aussi que il y a tellement de gens maintenant qui, au lieu de réfléchir à voix basse ou au lieu de faire de l'introspection puis de réfléchir pour eux-mêmes par eux-mêmes, ben ils vont prendre leur téléphone, jaser au téléphone. C'est littéralement là, un flux de pensée, mais livré en mode selfie sur son téléphone, envoyant stories pour avoir la rétroaction des gens. Puis moi, je pense qu'il y a une partie qui est vraiment intéressante là-dedans. Tu sais, moi, des fois, il y a des affaires où je suis comme, crime, si j'étais ce gars-là, là, je pourrais prendre mon téléphone puis là, partager cette réflexion-là, mais c'est pas mon réflexe.
Exact.
Mais je pense qu'il y a des gens qui le font de la bonne façon puis ça donne des vraies conversations. Mais je pense aussi qu'il y a souvent du débordement où là, c'est vraiment de la pure représentation de sa propre vie. Puis là où ça devient inintéressant puis où ça prive justement la personne qui le fait de sa propre introspection. Puis c'est de là, je pense que certains scandales émergent aussi.
Mm-hmm, absolument. Mais c'est... Moi, c'est une réflexion qui est au cœur de tout ce que je fais depuis que j'ai commencé à pratiquer le métier parce que, justement, les réseaux sociaux... tu sais, moi, j'ai fait ma page Facebook, je pense, en sortant de l'école de l'humour. Fait qu'en 2013. Puis après ça, je me suis parti à Instagram. Puis ça m'a quand même vraiment aidé au départ.
Ah ouais.
Fait que ça a été un outil de travail extraordinaire. Mais ça a fait en sorte que j'ai toujours pensé à mon utilisation de cette affaire-là. T'sais. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça nuit à la personne avec qui je suis en ce moment? Puis à un moment donné, ben, c'est peut-être facile pour moi de dire ça aujourd'hui parce que j'ai un following qui a comme aucun hostie de bon sens.
Ouais.
Mais je fais, ah, faut que je débarque un peu de ça. Pour justement... entendre mon dialogue à moi. Arrêter de me déconcentrer. Puis c'était contre personne, juste pour moi. Mais on vit tellement une époque de « Ah ouais, tu sais, ben, vu que je t'apprécie, ben, je vais te follower, puis tu vas me follower. » Puis si je t'en follow, ben là, il y a des gens qui réagissent mal. « Ah, c'est quoi? » C'est comme « Man, tu sais que je t'aime.
Ouais. »
Tu sais, qui fait que je te follow ou pas, c'est comme dans le vrai monde. On se l'est dit, puis on s'apprécie, tu sais. Mais c'est vraiment une drôle de bestiole que j'ai l'impression qu'elle est devenue comme trop grosse, puis là, elle m'effraie. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai fait un post pour les enseignants puis les enseignantes. Man, ça m'a stressé toute la journée. Parce que ça a une espèce d'ampleur. C'est là où je te disais, ça devient comme le talk of the town, parce que... J'ai entendu que ma mère me parle des commentaires qu'il va avoir sous la publication. Mais elle est contente, elle c'est juste... Si mon fils est suivi par tellement de gens. Est-ce que les gens sont fins avec mon fils? C'est juste l'inquiétude. Puis là, elle va checker. Puis c'est comme, OK. Parfait, le monde est fin.
Puis en même temps, à quelque part, c'est normal pour toi que ce soit stressant de faire ce genre de publication-là parce que tu sais la portée que chaque geste que tu poses sur les réseaux sociaux, que chaque photo que tu publies, que chaque message que tu passes a... C'est comme à une époque, puis en fait, quand t'allumes ton Instagram puis que tu décides de publier quelque chose, j'essaie de prendre un exemple qui va être insultant pour personne.
Ah, 2021, hein?
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ta portée, ta portée, là, les gens qui sont là, sont plus importants, c'est plus important que... ben du monde qui travaille dans des médias traditionnels puis qui ouvre la caméra un vendredi soir ou un jeudi soir. Tu comprends? Tu vas rejoindre spontanément plus de gens que beaucoup de monde qui sont dans les médias traditionnels puis qui ont une tribune qu'on considère comme la tribune la plus prestigieuse de notre univers. En fait, s'il y a du stress à ouvrir le Kodak puis à aller faire une entrevue avec God knows who, j'imagine qu'il y a du stress aussi à passer un message qui est cher à ton cœur, mais qui peut être repris d'un million de façons par 200, je ne sais trop combien de personnes te suivent, mais par des centaines de milliers de personnes.
C'est ce qui est drôle, je pense, quand une affaire qui, au départ, c'est que le rapport à ça a tellement changé. Parce que quand tu commences, du moins moi, quand je commençais en humour, le souhait, c'était juste d'avoir 100 personnes dans un bar les lundis soirs.
Ouais, je comprends.
Fait que c'est de faire... Puis c'était annoncé que j'allais animer au dé... Et je partais le lundi de chez moi pour aller au jockey et je me disais encore, il va-tu avoir du monde? Fait qu'au départ, c'est ça. Tu fais, je veux des followers pour que les billets se vendent. Parce que moi, mettons, mon médium n'est pas Instagram en soi, c'est la scène. Ouais. Fait que Instagram ou Facebook devient le tremplin ou le moyen d'attirer ces gens-là vers ma finalité qui est la scène. Et là... fait qu'au début, c'est comme, Chris, 5000 followers, fucking in. 10 000, swipe up, fucking cool. Non. Pop, ça monte. Ah, puis ça, c'est à l'époque où c'était encore le fun, Instagram. Là, c'était pas... Et là, c'est devenu une espèce de grosse affaire que je fais, asti, je pense que je suis un peu trop fragile pour gérer ça.
Ouais.
Je suis pas bon pour stand my ground. Si tu me dis t'es un trou de cul, je vais sûrement faire ouais, t'as raison. je m'excuse. J'aurais pas dû.
Fait que t'es pas immunisé à ce que les gens vont commenter, par exemple, sur tes publications,
je
ce
lis
que les gens vont écrire.
Rien du tout.
Meilleure solution si c'est pour t'affecter.
Je lis rien du tout. Fait que j'utilise encore ça, mais aussi, en fait, ce qui est cool, c'est qu'avec le temps, je pense que, justement, cette réflexion-là face à la responsabilité qu'on a d'avoir une tribune, peu importe la grosseur de la tribune, là, j'en suis conscient plus que jamais, qui fait que je choisis qui je reçois ici.
Je comprends.
Qui fait que je choisis ce que je poste sur Instagram. Qui fait que, après ça, faut pas que ta responsabilité te fige. Parce que, je peux aussi animer au dé, puis c'est une télé-réalité, puis c'est un jeu, man.
Ouais.
On peut chiller, là. On peut avoir des conversations super deep, puis vulnérables, puis de même qui sont... Moi, c'est mes conversations favorites, puis c'est ce qui remplit mes journées, puis c'est ce qui fait que je dors bien la nuit. Mais on peut aussi jouer au spike ball, man, puis à Uno, là.
Ouais.
Tu sais, comme... Puis c'est super. Fait que des fois, moi, c'est là où... Des fois, faut que je repogne l'équilibre.
Je comprends.
De cette affaire-là. Peut-être dû au fait aussi où c'est que mon plus gros projet... C'est occupation double. C'est peut-être ça aussi qui fait comme année, c'est comme, ah, attends, là, tu sais. Mais c'est tout le temps l'espèce de question de, ah, si je fais tout ça parce que ça me tente ou j'ai tellement peur de devenir une parodie de moi-même. De faire, quand je fais ça, les gens m'aiment, donc inconsciemment, je vais refaire ça parce que comme ça, j'ai peur de pas être conscient d'être dans ce cercle-là.
Je pense que les gens qui deviennent des caricatures d'elles-mêmes le deviennent parce qu'ils arrêtent de réfléchir. À ce qu'ils sont puis à la représentation d'eux-mêmes. Il ne faut pas que ça devienne exagéré, la façon dont tu penses à ce dont tu as l'air puis à la façon dont tu te présentes à la caméra ou autre. Mais je pense que d'avoir constamment cette réflexion-là sur est-ce que je suis en train d'être une version de moi-même qui est honnête par rapport à ce que je suis humainement, ça reste très, très sain, j'ai l'impression.
Oui, je pense que oui. Puis il y a aussi le fait que je pense que les gens que j'admire le plus... Si je nomme des Frank Ocean, des Kendrick Lamar, des Dave Chappelle, entre leurs albums ou entre leurs shows, je sais pas sont où, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas. Je sais même pas comment Frank Ocean paye ses bills. Tu comprends? Genre, je comprends pas comment ça marche.
De multiples façons.
Mais tu sais, mettons, il y a quelque chose qui... J'aime ça quand j'entends plus parler d'un artiste, quand je fais « Ah, il doit être en train de faire exactement la bonne affaire. » J'ai l'impression...
Ah ouais.
Peut-être pas, mais j'ai l'impression.
Mais là, en ce moment, tu t'en viens quand même dans une posture où tu pourrais faire ça. À un mais moment donné, disparaître pendant un bon bout de temps, revenir, puis l'intérêt serait toujours là. Tu vas jamais... T'es pas dans une situation où tu peux disparaître en deux ans, mettons, dans la mémoire collective, je parle.
Non, c'est ça. Puis en fait, c'est de le faire parce que ça me tente de le faire. Pas le faire pour dire que je l'ai fait.
Je comprends.
C'est tout le temps ça encore. Fait qu'il fait en sorte qu'en ce moment... après mes saisons d'OD, de plus en plus, je fais « Ah, j'ai besoin de reprendre mon souffle un peu. » Je fais pas pitié. Pas du tout. Mm. C'est un choix. Je fais « Ah, ben, justement, je pense que je suis un gars sensible. C'est souvent haut en émotion.
Ouais.
Besoin d'un peu retomber sur mes pieds. Tu sais, jaser avec mes parents. Puis faire comme « OK. » Normalement, je retourne en spectacle.
Mm.
Fait que ça, c'est une manière de... C'est quand t'es en show, il y a quelque chose de... T'es là, mais t'es pas là, tu sais. C'est la rencontre.
Ben ouais.
Ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est humain. C'est pas capté, c'est pas télévisé, c'est pas radio. C'est là. C'est là. Mais c'est... Des fois, encore une fois, c'est ça. Des fois, c'est dur de couper tout. Puis c'est là où moi, il faut que je fasse mon petit chemin. Parce que c'est comme, les gens vont comprendre.
Mm.
Mais là, c'est comme, ah, je veux pas qu'ils le prennent mal.
Pas décevoir.
Je veux pas qu'ils pensent que j'ai la grosse tête. Mais tu sais, c'est comme, hey, dude, genre, c'est pas contre personne, c'est pour moi.
Mm.
Fait que je le fais simili en ce moment. C'est juste que je sors un podcast par semaine. Fait que techniquement, si tu veux savoir comment je vais puis ce qui se passe dans ma vie, si
tu
écoutes le podcast,
tu le sais.
Je suis crissement pas en train de me cacher d'une grotte.
Ouais.
Mais moi, dans ma semaine, mes semaines ressemblent beaucoup plus à quelqu'un qui est en train de repogner son souffle puis de replacer ses affaires. Puis le podcast, c'est juste un espèce de moment dans ma semaine où je fais « Hey, j'ai envie de jaser avec...
Ouais. »
Ben là, en ce moment, en plus, c'est une espèce d'excuse pour te voir.
Pour qu'on se voit.
Tu sais? Mais c'est vrai. Puis d'avoir des conversations qui me nourrissent, qui continuent de nourrir mes réflexions. Tu sais, à matin, j'écris des jokes puis aujourd'hui, je t'en parle. Mm. Puis tantôt, ils vont sûrement finir par se concrétiser. Tu sais,
ça évolue.
Ça fait partie de l'espèce de moment de
mais c'est une bonne utilisation, tu sais, du privilège que tu as de pouvoir animer ce show-là, Occupation Double, puis que ça te permette de créer de l'espace pour vivre, puis pour te nourrir humainement, puis professionnellement, puis créativement. Parce qu'il y en a qui, au contraire, feraient « je vais battre le fer pendant qu'il est chaud », puis j'ai pas de doute que si tu voulais travailler tous les jours de ta putain de vie dans une année, tu pourrais le faire sans aucun problème. L'idée, c'est ça, c'est de faire « Hey, j'ai le privilège de, puis on va dire les vraies affaires, financièrement, pouvoir faire un projet qui est un stretch, puis après ça, avoir l'espace pour prendre des décisions qui m'appartiennent, puis tu le fais. »
Mais tu me sembles le faire quand même aussi.
Ben...
Tu me sembles faire ce que tu as envie de faire.
Oui, clairement. C'est vrai puis faux, à quelque part. En ce sens où tout ce que je fais me passionne, mais j'ai pas tellement le luxe en ce moment de pouvoir faire repousser beaucoup de choses dans ma vie. Fait que mais ce que je fais, je le fais avec grande passion. Puis c'est juste que je pense que les gens aussi voient difficilement. Maintenant, je suis à la radio une fois par semaine, à la télé une fois par semaine. Mais tu sais, mon show de radio, c'est moi qui m'occupe de notre compte Instagram. C'est moi qui produis tous les contenus, à part les contenus des collaborateurs. Mais tu sais, tous les contenus qui sont montés dans le show, c'est moi qui les monte. Puis tout ça, fait que mes semaines sont vraiment chargées. Puis je pourrais pas faire autrement. Puis j'ai les pieds puis les mains liés avec grand bonheur à ce show-là hebdomadaire, 42 semaines par année.
C'est-à-dire vendredi... 8 ou 9 heures?
9 heures.
9 heures.
J'ai pas, tu sais, je pourrais pas une semaine faire, oh, prendre ça relax. Je peux pas, là. Tu sais, je me lève le lundi, puis ma semaine commence, puis la chose se fait le jeudi soir. On le prend enregistre parce que j'ai autre chose de vendredi. J'ai pas beaucoup de blocs malléables dans ma semaine.
Mais ça, mettons, c'est ce que tu veux faire. Dans le sens, est-ce
mm-hmm.
que, tu sais,
Oui, c'est ce que je veux faire dans le sens où ce show-là est 100% ce que j'ai envie de faire moi, à la radio puis dans la vie. Mais est-ce que je ferais autre chose en plus de ça? Évidemment que je ferais autre chose. Il y a bien d'autres façons dont j'aurais des... dont j'aimerais pouvoir dire des choses, parler de ce qui m'habite, parler de la culture qui me parle, faire découvrir... je ne suis pas que nouvelle musique. Tu comprends? Je sais pas si je l'explique clairement. Là.
Mais c'est qu'en fait, t'as plein d'autres idées. Il y a plein d'autres affaires que t'as envie de faire.
Il y a d'autres vecteurs que j'aimerais explorer. Parce que la radio, c'est un truc. Mais ça reste un médium en ce moment, surtout dans la façon dont on le fait, puis au moment où on le fait, qui reste relativement niché.
Mm-hmm.
Puis il y a des choses que j'ai envie de dire que je pense pourrait et ou devrait rejoindre plus de gens. Mais après ça, ça sonne super prétentieux de le dire comme ça, mais je suis très heureux. Tu sais, je reconnais vraiment le privilège que j'ai en ce moment.
Mais je pense pas que c'est prétentieux après ça, dans le sens... Puis ça aussi, c'est beaucoup dans... dans l'air du temps, cette espèce de sentiment-là où c'est comme... On est chanceux, fait qu'on n'a pas le droit. Tu sais, t'es pas en train de chialer, t'es en train d'exprimer que t'es comme, hey, moi, il y a des choses qui sont importantes pour moi, puis j'ai le sentiment que ça pourrait rejoindre un plus large.
C'est ça, c'est exactement ce que je dis. Après ça, si je mets des gants blancs, c'est parce que je me dis, on est en pandémie depuis un an. Moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Il n'y a même pas été question que j'arrête de travailler pendant toute cette période-là. J'ai eu des projets qui ont été géniaux, pas liés à la pandémie, mais qui se sont développés pendant ce moment-là. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est comme vouloir toujours plus dans ce contexte-là, c'est un peu vulgaire. Après ça, je l'exprime quand même que oui, j'aurais autre chose à dire dans d'autres médiums puis dans d'autres vecteurs puis de façon plus large que ce que je dis en ce moment, mais je ne rejette pas ce que je suis en train de faire en ce moment. T'sais. Puis tantôt, je te parlais d'un podcast que j'écoute qui s'appelle Dead Eyes. Puis à un moment donné, il fait une entrevue avec Tony Hale, le gars qui joue, entre autres, Gary dans Veep. Puis il dit, tu sais, moi, mon exercice en ce moment, puis là, ça a l'air de la chose la plus croissance personnelle là, que je veux dire au monde. Mais il dit, mon exercice, c'est d'être... non seulement dans le moment présent, mais donc de considérer chaque chose que je fais dans l'immédiat comme la chose la plus importante que je suis en train de faire. Puis il dit, tout ça m'est arrivé parce que moi, j'ai aspiré pendant une bonne partie de ma carrière à avoir un gros rôle comique dans une série culte à la télé. Finalement, il a joué dans Arrested Development, il a joué dans Veep, puis il dit, chaque fois que j'ai eu une opportunité qui correspondait à ce que j'identifiais comme ma plus grande ambition de carrière, mon cerveau était tout le temps en train de penser à « OK, maintenant que ça s'est fait, maintenant que j'ai deux Emmys, qu'est-ce que je peux faire d'autre? » Puis ça, je trouve ça intéressant. Puis l'idée de pouvoir faire « Hey, là, en ce moment, mettons, en ce moment, puis c'est ce qu'il dit dans son entrevue, il dit « En ce moment, l'entrevue que je fais pour ton podcast, c'est la chose la plus importante que je fais. La prochaine chose plus importante que je vais faire, elle sera quand on aura fini. » Mais ça, ça a l'air vraiment niaiseux, dit comme ça. Puis comme je dis, ça a l'air hyper croissance personnelle. Mais t'essaieras de faire cet exercice-là. J'essaie de le faire depuis que j'ai écouté ça. Je suis un-fucking capable.
Sais-tu où j'ai eu cette réflexion-là? C'est que moi, je lis quand je suis en vacances. J'ai beaucoup de difficultés à lire pendant que je travaille. Je sais pas pourquoi.
Parce que tu te dis que t'aurais autre chose à faire.
I guess.
Parce que c'est passif à quelque part lire, même si c'est hyper actif intellectuellement.
Exactement. Et là, j'arrête pas de me dire ça. Parce que je m'assois pour lire... Et moi, qui est un gars qui culpabilise de base, fait que là, on dirait que je suis comme, je m'assois, puis là, je lis un paragraphe, mais là, je suis ailleurs dans ma tête, puis là, je m'arrête, puis encore une fois, je suis un gars tout seul dans sa maison, qui est juste comme, je le dis à voix haute, « Hey, lis. »
C'est ça.
Juste lis.
Ouais.
Mets ton téléphone d'une autre pièce. La dernière fois, là, j'ai mis un timer. J'ai été dans l'autre pièce, j'ai fait, « Donne-toi une heure. » Tu te lèves tôt maintenant? J'ai mis un timer dans l'autre pièce sur mon téléphone. Je suis allé m'asseoir dans le salon. J'ai fait, tant que ça buzz pas, tu restes ici puis tu lis. Et il a fallu que je me concentre, puis ça m'a pris du temps. À un moment donné, j'étais comme, ah, je suis plongé dans le bouquin, puis tout était parfait, tu sais.
T'es là.
Mais c'est là où j'ai fait, en ce moment, c'est ça que je dois faire. Je dois lire ce chapitre.
C'est un exercice de faire ça, puis de... C'est ça, c'est que c'est pas juste d'exister dans le moment présent, puis de pas juste faire... Aïe, aïe, là, je suis là, ça va bien, je suis heureux. C'est important de le faire aussi. Là. Moi, étant une personne anxieuse, puis étant une personne qui a cette tendance-là à spinner aussi, puis à avoir beaucoup de dialogue intérieur, des fois, j'ai juste besoin de faire, hey, mon gars, ça va bien, t'as une maison, t'as de l'argent dans ton compte de banque, t'as des amis, la vie est bonne. Ça, c'est une affaire à faire. Mais de focaliser encore plus de manière micro à ce qui se passe dans ta vie, dans le moment présent, pour moi, c'est la chose la plus difficile parce que quand je suis en train de faire quelque chose, tu sais, comme là, mettons, tantôt on se parlait, quand j'ai pris mon téléphone pour faire un truc, j'ai vu que Steph, mon agente, m'a écrit. Puis là, pendant une fraction de seconde, mon cerveau est allé à « Ah, c'est vrai, j'ai parlé à Steph hier, puis on s'est dit qu'on s'appellerait aujourd'hui. » Puis je suis revenu.
Ouais.
Mais juste de perdre ce moment-là, c'est d'échouer à l'exercice de la chose la plus importante.
Ça m'arrive sur scène, man. Ça m'est arrivé sur scène. Ça, même que j'étais tellement rendu dans ma tête, dans certains spectacles, j'étais rendu à me dire, dans ma tête, voir que je peux penser à tout ça, continuant de compter mes jokes. Comme, j'étais rendu à me dire ça, puis j'étais comme, comment je peux être en train de parler de quelque chose, et dans ma tête, juger une autre pensée que j'ai, comme... Puis là, j'étais, hey, dude, encore une fois, j'étais comme, t'es fou, tabarnak, reviens ici.
Ouais, ça devient supra-supra-méta.
Oui, c'est ça.
Mais tu vois, je pense que c'est aussi une des choses qui fait que j'aime autant... la radio, puis en fait, faire de la radio comme je le fais en ce moment, où tu sais, je gère mes petites machines, je lance mes tunes, je lance mes extraits, tout ça, où j'ai des choses auxquelles réfléchir, c'est vraiment l'endroit dans ma vie où je suis le plus ici et maintenant, à 100%. Quand le micro s'allume, que l'heure commence, que je lance des tunes, que il y a vraiment rien d'autre qui existe. Absolument rien d'autre. C'est vraiment, vraiment rare que quand je suis en train de faire de la radio, il y a un moment, même pendant que les tunes jouent, c'est vraiment rare que je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais faire après le show ou qu'est-ce qui s'est passé avant le show. Puis, je te disais, mettons, cette semaine, il y a eu les mauvaises nouvelles, tout ça, j'étais comme tabarouette, hey, c'est tough. Mais là, il fallait que je fasse une heure et demie de radio de chez nous dans mon studio. Puis là, j'étais comme, hey, ça va être dur de trouver l'énergie pour le faire. L'habillage est parti, mon gars, il n'y avait plus rien qui existait. Plus rien pantoute. Je suis sorti de l'heure et demie, puis j'ai je sais pas si je filais mal, mais en tout cas, pendant cette heure et demie-là, il y a aucun de ces sentiments-là qui a percolé jusque dans ma façon d'être et d'exister.
Mais je pense que quand justement t'as la chance, c'est un heureux mélange de chance puis de courage là, de pratiquer ce que t'as envie de faire dans la vie. Ça m'est arrivé de monter sur scène, d'être à l'envers. Ça m'est arrivé d'arriver à un podcast puis d'être à l'envers. Et la même chose que toi de faire pendant ces moments-là, j'étais tellement ici, maintenant, en train de me... que je ressors, puis ça change la direction de ma journée. Ça me 100%. Ramène... Tu sais, je peux rentrer ici, il mouille, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors du studio, il fait soleil.
Ouais. Ah, c'est vraiment ça. Puis c'est... Puis je pense que c'est une façon aussi d'identifier très sincèrement ce qui te comble, puis ce qui te rend heureux dans la vie. T'sais, pour moi, le fait que d'opérer mes petites machines, de jouer de la toune puis de parler au monde, ça fasse que, justement, ça change la façon dont je ressens mes émotions. T'sais, d'entrer avec une émotion puis d'en sortir avec une autre puis de pas en revenir à cette émotion-là. Parce qu'il y a aussi ça. T'sais. Oui, je l'oublie pendant l'heure et demie, mais dans le cas dont on parle, quand je suis sorti de cette heure et demie-là puis que j'étais encore dans mon 24 heures de tristesse, déception, je suis jamais revenu à l'état dans lequel j'étais avant. Si ça a été un way up à partir de là, tu sais. J'ai soupé, bu un verre de vin, couché, levé le lendemain, puis après ça, c'est un way up, puis là, on est 24 heures après mon 24 heures. Je suis comme, c'est pas fini, c'est encore là. Mais l'émotion vive de déception puis de tristesse est plus présente. Tu sais, elle a été transformée en... pas encore en moteur, mais c'est en chemin de devenir du carburant pour mon moteur, pour ce qui va être une tentative pour la suite, tu sais. Puis c'est aussi, c'est ça qui est fou, tu sais, c'est que on est dans une situation, tu sais, tantôt on parlait de notre privilège de travailler, puis tu sais, moi je suis dans une situation où, encore une fois, j'ai fait des choix depuis mes 23 ans, depuis que j'ai commencé à faire ce métier-là jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans, j'en ai 33, tu sais. Puis j'ai pris des décisions très conscientes pour en arriver à un point où j'allais avoir ces bulles d'opportunités-là pour faire des choses qui me ressemblent. Ça vient avec, sincèrement, des gros sacrifices. Puis ça vient sincèrement aussi avec beaucoup plus d'échecs, je pense. En fait, ça vient avec une exposition à beaucoup plus d'échecs que ce que j'aurais eu si j'avais emprunté, comme on en parlait, l'autre branche de ma fourche. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que je disais ça, parce que je trouve ça important quand même que à travers le fait qu'on soit... Tu sais, que je sois considéré comme quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une carrière satisfaisante, ce qui est vrai, là, tu sais, sans être une personne extraordinairement connue. J'ai une carrière qui est très satisfaisante, puis je fais des trucs qui me ressemblent, puis je pense qu'il y a du monde qui se retrouve là-dedans. Il y a aussi toute une partie de ma vie qui est remplie d'essayer des affaires puis me péter à gueule. Tu comprends? Puis c'est sûr, c'est juste que cette affaire-là, ces affaires-là sont pas publiques.
Genre quoi?
Ben n'importe quoi, tous les projets que j'ai... Tu sais, je travaille fort, là, je travaille vraiment beaucoup, là, parce que si je veux essayer des affaires qui me ressemblent, je me dis qu'il faut que je sois le moteur de ces affaires-là. Fait que je travaille avec des gens qui sont extraordinaires, des producteurs, des productrices qui croient en moi, qui croient en mes projets, qui les apportent aux bons endroits. Puis jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'est comme... Ah, ça, malheureusement, ça sera pas possible. Puis j'en veux jamais à personne parce que je sais que ce que je propose parfois, ça représente un risque là, dans le contexte dans lequel on est. Mais n'en reste pas moins que ça fait un petit peu mal.
C'est clair. Puis le pire, c'est que... Puis j'ai beaucoup de réflexions par rapport à ça, justement, parce que... Et moi, je suis... Vraiment, les gens aiment pas ça quand j'emploie ce mot-là, mais c'est vrai, je suis très chanceux.
Mm-hmm.
Je diminue pas le travail que je fais, je diminue pas le certain talent que j'ai. Il y a rien de ça que je diminue. Évidemment qu'il y a une part qui me revient.
Ben oui.
Man, mais la chance, le cul béni, bord en bord. Là, tu sais, je veux dire,
le cul bord des nouilles, comme dirait mon ami Nico.
Mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, j'ai déjà travaillé à l'usine à mon père avec un gars... Le premier gars qui m'a parlé de Joe Rogan en 2009,
ouais.
C'était comme, il avait toujours son écouteur. À l'époque, c'était comme, on portait pas encore tant que ça des écouteurs comme dans la vie tout le temps, tu sais.
Ouais, c'est ça, t'avais pas une conversation avec quelqu'un en ayant tes deux AirPods dans les oreilles.
Exact, tu sais. Ouais. Chose qui est rendue fréquente, tu sais. Puis il était hilarant, ce gars-là.
Ouais.
Je le trouvais hilarant. Il était un peu plus vieux que moi, là, tu sais. J'avais peut-être en 2008-2009, en tout cas, je me souviens pas exactement, là, mais j'avais, c'est ça, là, 18.
Mm.
Puis, de début vingtaine, lui, je le trouvais drôle, man. Puis moi, mes personnes préférées, c'est les gens drôles, tu sais. Fait que j'étais comme, ouais. Oh my God, man, il est drôle, hostie, c'est hot. Puis, à un moment donné, moi, j'étais comme, j'ai commencé à un moment donné à faire de l'humour, tu sais. Puis j'avais été d'une soirée d'humour, puis j'étais comme, dude, viens avec moi, man, viens voir le show, tu sais, comme, t'es drôle, Chris. Si moi, je me mets à essayer de faire ça, tu devrais essayer toi aussi. Mm. Dans ma tête, c'était juste simple de même, tu sais. Ouais. Puis après ça, c'était comme, je suis le fils du boss de l'usine où on travaille. Et lui, il travaille à l'usine à mon père. C'est pas la même affaire. J'ai ce job-là, j'ai pas fait mon CV, tu comprends? Je suis le fucking fils du boss. Mm. Comme, je pense que j'étais un pas pire fils du boss. J'étais pas le type chiant puis whatever, tu sais. Mais je suis le fils du boss.
Ouais.
Quel fucking lucky dude.
Ouais.
J'ai pas payé mes études. Mes parents m'ont aidé à acheter ma première maison. Ils m'ont aidé à acheter mon premier char. Tu sais, comme, maintenant, en vieillissant, tu caches que c'est comme, autant, je suis comme, oh my God, tu travailles fort. Non. C'est comme, hey dude, ferme ta gueule. Comme, c'est Nicole Bivant qui ils ont monté les voiles de ton voilier puis ils souffrent dedans, genre. Puis toi, t'es là en train de dire que t'es le capitaine. Dans le sens où, encore une fois, j'exagère, mais en vieillissant, à un moment donné, cette humilité-là chez moi a grandi.
Ouais.
De faire, c'est extraordinaire ce qui se passe, puis je suis heureux d'avoir la vie que j'ai, mais d'être ultra conscient de cette chance-là et de faire. Ça revient un peu à la responsabilité. On dirait que la journée où je suis devenu ultra lucide, je pense que je l'ai toujours su. Mais tu sais, quand t'es dans les bars, des fois, tu te sens plus malchanceux. Quand t'as pas les projets que tu souhaites, naturellement, tu vas faire, non. Mais là, à un moment donné, j'ai atteint une espèce de. c'est cela où c'est comme, ah ben, mes salles sont pleines, ça m'a. Puis là, t'es juste comme, oh my God, attends, je suis fucking lucky, là.
Mm.
Moi, je pensais que ça avait été long. Chris, ça a pris 15 minutes, tu me niaises. Puis là, de faire, OK, ben, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant?
Exact. T'sais? Mais dans l'absolu, c'est ça. Puis c'est, en fait, je pense, ce dont il faut se rendre de plus en plus compte, surtout avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année, du point de vue non seulement sanitaire, mais social, c'est qu'est-ce que tu fais avec les privilèges qui te sont tendus? Comment tu les utilises? Comment ce sens de la responsabilité se développe chez toi parce que t'as pas eu à passer à travers les hustles and struggles que bien d'autres gens ont eu à vivre pour en arriver, ne serait-ce qu'à à peine au même point que toi ou dans une situation décente. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça pour avancer? Puis je dis « tu », mais c'est la même chose pour moi. Tu sais, moi, j'ai grandi à Québec. Mes parents étaient pas riches, mais ils étaient pas pauvres. Puis surtout, ils ont géré leur argent de façon à ce que les études soient une priorité dans leur vie puis dans ma vie, puis que tant que je vais y aller aux études, qu'ils puissent être là financièrement. Fait que juste ça, juste de pas avoir eu cette préoccupation-là dans ma vie, c'est un énorme putain de privilège. Puis le fait que je puisse être ici en ce moment puis faire mes projets fonctionnent pas, puis j'aimerais ça que certains projets fonctionnent, alors que, tu sais, j'ai une job à la Société d'État dans un diffuseur public à jouer de la toune que j'écouterais de toute façon chez nous. Tu comprends? Reste un sacré privilège. Après ça, de vouloir en faire plus, puis de sentir qu'on peut avoir un allant qui va être plus, je sais pas, plus inclusif, c'est aussi ça, là. Tu sais, comment je dirais ça? Faut pas être freiné non plus par l'idée de ne. d'avoir peur de revendiquer quelque chose par peur d'avoir l'air de pas reconnaître notre privilège.
C'est de trouver l'espèce de juste milieu entre l'humilité, exact. La conscience, la lucidité et l'ambition.
Ouais, exact. Complètement.
C'est de jongler avec ces quatre balles-là, ouais. De faire « je suis chanceux, mais je suis, tu sais, donc je suis lucide, donc je suis humble, mais je veux quand même repousser mes propres limites. »
Non, oui, puis de pas se créer, encore une fois, comme on le disait, là, quand on parlait de vivre sa vie pour la raconter, mais aussi de pas se créer un faux narratif. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'irrite parfois aussi, c'est du monde, par exemple, dans ma posture, qui ont plein de chances dans la vie, puis qui font... Moi, man, c'est pas facile, je l'ai eu tough quand même, tu sais, puis genre, je présente des projets, c'est vraiment tough. Ma carrière est vraiment tough, juste que tu le saches. C'est pas ça que je dis, là. Zéro puis une barre. Puis raconter cette histoire-là, puis essayer de te créer un backstory de hustle qui existe pas, ça, je trouve ça complètement absurde. Pour moi, c'est inutile et contre-productif. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, mais le pire, c'est que je pense que
Il y a du monde qui le croit là, quand il raconte.
Mais... Ben, en fait, c'est que je pense que c'est normal dans tous les milieux où il y a de l'ego, de la compétition. Nous, en plus, ça se veut public. Mm-hmm. Je pense que c'est normal d'avoir des moments où, justement, notre narratif devient... On pense que c'est une réalité.
Ouais.
Tu sais, moi, j'ai eu des moments... J'avais jamais compris... Quand on me disait que quelqu'un était amer quand j'étais plus jeune, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mmh. J'avais jamais vraiment compris c'était quoi.
Mmh.
Jusqu'à ce que j'entre dans le milieu de l'humour et que je rencontre certaines personnes amères et que là, je fasse comme...
L'amertume sur deux pattes.
Ah, c'est ça que c'est.
Ouais.
Et ça m'est arrivé d'être cette personne-là. Momentanément.
Mais attends, non. Tu devais être cynique, mais pas amer. Parce que l'amertume, pour moi, c'est quelque chose dont tu te remets pas.
Mais je pense pas que c'était... D'abord, t'as peut-être raison, mais je pense même pas que c'était du cynisme. C'était peut-être de la jalousie.
Ah.
Mais le pire, c'est que je suis un gars qui est tellement difficile avec lui-même que c'était vraiment axé vers moi. C'était envieux.
C'est ça, c'est de l'envie.
C'était de l'envie, peut-être. Mais il y a eu des moments où on dirait que je mêlais toutes ces émotions-là, peut-être en une grosse affaire, puis je me disais, je suis pas en train de faire la bonne affaire si je suis en train de me concentrer sur ce que j'ai pas plutôt que de me concentrer sur ce que j'ai.
Mais ça dépend où ça te mène, l'envie. Parce que moi, j'ai des amis qui vont nommer leur envie, qui vont faire, mettons, je sais pas, acteurs, actrices qui vont faire « Hey, pour vrai, je suis vraiment envieux de la posture dans laquelle est telle ou telle personne en ce moment, par sa notoriété, par les rôles qu'elle ou il réussit à avoir, par les projets qui lui sont offerts. » Mais ils vont utiliser cette envie-là, par exemple, comme un moteur. C'est-à-dire qu'ils vont identifier les éléments qui font qu'ils sont envieux puis essayer de travailler dans ce chemin-là. La pire forme d'envie, c'est l'envie qui mène justement au cynisme.
Mm-hmm.
Qui devient de la jalousie juste perfide, juste laide, puis qui fait de toi un humain de marde. Mais d'être envieux, très sincèrement, je pense qu'il y a une courte période où ça peut être sain. Mais il faut que rapidement, ça te mène à l'action.
C'est ça, exact. Je pense que c'est ça la ligne entre l'envie puis la jalousie.
Exact.
La jalousie, je pense, c'est très négatif.
100%.
L'envie, ça peut être un moteur.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a eu des moments où j'étais confus dans tout ça.
Ouais.
Mais j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir les bons réflexes, d'être wiré de la bonne manière pour avoir les réflexes de faire « OK, là, il faut peut-être que j'arrête de regarder les autres humoristes avant de monter sur scène. » Pas que c'est rien contre eux, c'est juste pour moi. Pour embarquer, pour trouver moi. Je suis qui, moi, sur scène? Je ne sais pas. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui est un peu politique avant moi, là, je suis comme « Asti, moi, je vais peut-être être trop énervé, je vais peut-être me calmer. » S'il y a quelqu'un qui est fucking scénar avant moi, je suis comme « Asti, moi, je suis trop calme, il faut peut-être que je fasse plus. Hein? » À un moment donné, t'es juste comme une espèce de teinte des gens que t'aimes. À un moment donné, c'est de faire... Moi, j'ai comme coupé ça, puis la tournée m'a aidé. Parce qu'à un moment donné, tu finis par... T'as plus personne à qui te comparer.
C'est juste toi.
C'est juste toi. Fait qu'à un moment donné, ben, tu comme... Mais t'es quand même en train de travailler ton one-man show, Chris, là, tu sais, c'est deep, là, tu sais, fait que... Mais tout ça, ça a été... C'est ça, des espèces de moments de même où je suis comme... Ah, tu sais... C'est quétaine à dire, là, mais c'est juste d'être la meilleure version de toi. C'est d'être c'est toi contre toi.
T'sais. Mais c'est dur parce que, tu sais, ce que tu décris, à quelque part, c'est une forme de maturité, tu sais, professionnelle. Excuse-moi. C'est une forme de façon d'avoir appris à tracer ton propre chemin puis à identifier force-faiblesse, tes valeurs, la façon dont tu évolues, puis à devenir en quelque sorte imperméable à l'environnement autour de toi pour être capable de focaliser sur ce que tu es capable de faire toi-même. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'en même temps, en vieillissant, on devient de plus en plus imperméable à bien des choses, pas juste professionnellement, là, bien des choses de notre environnement. Puis c'est ça qui est un peu... qui peut devenir déplorable à certains égards. Tu sais, quand on parle des vieux, je suis pas très très dans l'âgisme dans ma vie puis dans la définition générationnelle, mais il n'en reste pas moins que quand on se met à parler des vieux qui sont donc bien fermés d'esprit, il y a un peu de ça aussi, à mon avis, de cet instinct-là de survie, d'avoir fait, hey, pour vrai, là, un moment donné, il faut que je sache ce que je pense, ce que je veux, c'est quoi mes valeurs, politiques, personnelles, professionnelles, si je veux être capable d'avancer puis d'être le moindrement heureux ou en tout cas de survivre à ce monde-là qui peut donc bien devenir taxant. Mais ce que ça fait, c'est que quand il arrive des nouvelles idées, des nouvelles idéologies, des nouvelles façons de voir le monde avec parfois des générations plus jeunes, ben c'est plus difficile de percer la carapace parce que cette carapace-là, elle a été faite pour survivre en vieillissant. Fait que c'est ça que je trouve drôle, tu sais, dans notre façon de puis surtout dans notre milieu. C'est-à-dire que oui, il faut que tu deviennes imperméable à... pas à l'énergie des autres, mais justement à cette envie-là, à cette jalousie-là, puis à ce que le fait de penser aux autres peut t'enlever, gros guillemets. Puis d'un autre côté, il faut que tu restes complètement ouvert, parce que si t'arrêtes d'exister dans le monde dans lequel tu vis, quoi tu sers?
Ouais.
En tant qu'artiste, en tant qu'artisan, en tant que créateur ou créatrice, tu sers plus, à mon avis, à rien.
Mais c'est là où je pense que tu mets le doigt sur quelque chose en plus, c'est que des fois, on pense que de rester ouvert ou connecté, ça se passe sur le téléphone, alors que ça se passe quand tu jases avec tes parents, ça se passe quand tu vas à l'épicerie, absolument, ça se passe quand tu essaies d'acheter de quoi sur Marketplace. Moi, c'est ça que je suis en train de vivre là.
Ouais.
C'est que je fais, man, j'allais au resto tout le temps, moi.
Exact.
Et là, j'ai jamais fait autant de vaisselle de ma vie, man.
Ouais.
Mais c'est ma manière de rester connecté.
Ah ouais.
Encore une fois, quelle chance de pouvoir dire ça, crise de plein de merde à 29 ans. Là, mais je suis tout à fait d'accord. Puis je pense qu'en plus, c'est de connecter sur ta vérité à toi, de rester connecté par rapport à c'est quoi que je veux faire? C'est quoi mes valeurs?
Ouais.
C'est quoi qui est important pour moi? Puis de puis c'est pour ça que j'arrête pas de dire la chance que j'ai de pouvoir, puis je pense la chance qu'on a de pouvoir pratiquer un métier qui nous passionne.
Ben oui.
Et d'avoir eu le contexte pour pouvoir y rêver, puis ouais, faire de ce rêve-là une réalité, que des fois, c'est ça l'espèce de ligne à faire comme tout le monde est capable de tout, suivez vos rêves, nanana, c'est de faire comme attends, là, Chris, il y a une espèce. Puis je suis pas en train de dire que tout est pas possible, mais il y a des postures dans lesquelles c'est câlissement plus complexe, là, tu sais, que juste faire comme « Man, essaie-toi à l'école de l'humour! » Tu sais, comme...
C'est ça. C'est... Ah ouais. Il y a... mais moi, j'ai jamais été... Je reste une personne pragmatique et rationnelle. Fait que, tu sais, moi, pour moi, l'idée de... Tout est possible. Ben, suis tes rêves. Oui, OK, d'accord. Tout est possible, oui, peut-être juste pas pour moi, peut-être juste pas pour toi.
T'as-tu vu le dernier special de Chris Rock?
Non, j'ai pas vu.
Son show s'appelle Tambourine, puis il dit ça à un moment donné où il va à une espèce de rencontre à l'école de sa fille, tu sais. Puis il dit, c'est juste un gros truc où t'as des adultes qui viennent juste mentir aux enfants en disant « You can do anything, you can maybe... » Four of you can do anything. Il est comme, je vois au moins 60 Uber drivers. Tu sais, comme. C'est juste comme, ah, dude, mais c'est. Il y a quelque chose là, tu sais.
Mais c'est dur parce que, surtout quand t'es dans une position d'adulte par rapport à des gens plus jeunes, c'est d'instiller chez le ou les jeunes une forme de rationalité puis de clairvoyance. Puis en même temps, d'un autre côté, de pas être un éteignoir. Puis ça, c'est l'affaire la plus compliquée. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir du ressentiment envers des profs qu'ils ont eus dans le passé ou même leurs parents ou des membres de leur famille qui les ont empêchés, selon eux, ouais, mais c'est tout à fait valide, mais selon eux ou elles, d'aller dans la direction où ils voulaient aller parce que ces adultes-là ont joué le rôle de déguisement puis les ont effrayés de vouloir vraiment explorer ce qu'ils ont à vivre. Mais je trouve ça quand même sain dans la vie que t'es un adulte ou en tout cas une figure d'autorité ou un parent qui puisse te dire, qui puisse te donner les times pour vrai. Tu sais, moi, mes parents, quand j'ai dit « Ah, ils pensent pas les sciences, ces affaires-là, je pense, moi, je vais aller en ATM puis je vais essayer de faire de la radio », mes parents, ils ont pas fait « Ouf, ça va être, t'aimerais pas mieux faire autre chose ». Mais ils m'ont quand même dit « T'es conscient que ça se peut que ce soit vraiment difficile ». Puis là, tu fais…
Mais ce qui est tellement une belle manière…
Ben absolument.
D'ouvrir une conversation.
Parce que c'est aussi de vérifier… chez ton, là, je parle de la situation avec mes parents, mais de vérifier chez ton enfant s'il est conscient du risque qu'il prend, puis si sa passion ou son envie dépasse sa potentielle peur de cette réalité-là que tu lui exprimes. Tu sais, moi, j'ai entendu plein de gens autour de moi qui ont dit « Ah, j'aurais aimé ça, tu sais, aller en ATM, mais je suis pas allé parce que c'était loin, parce que ci, parce que ça. » Puis je dis pas que ces gens-là avaient pas la force d'y aller, au contraire, mais dans ce moment-là de leur vie, c'était pas la décision qu'ils avaient à prendre. Moi, quand mes parents m'ont dit ça, j'étais comme « Oui, ça va être tough, mais c'est la seule chose que je me vois faire en ce moment, aller faire de la radio puis aller rencontrer du monde qui ont les mêmes passions que moi. » Fait que ça va être ça. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que c'est vraiment important de dire la vérité. Mais il y a des gens, je suis sûr, qui seront pas d'accord avec moi et qui sont comme, faut que tes parents te permettent de rêver puis qu'ils te disent effectivement que tout est possible puis que tes rêves puis machin. C'est juste que moi, personnellement, si on m'avait dit, ben là, c'est pas un bon exemple, là, mais je me dis que si j'avais pas su dans quoi je m'embarquais puis que rien n'avait fonctionné, je sais pas comment je me serais senti trahi, en fait.
Ouais, ben oui, c'est ça. Mais je pense c'est que ça revient à du cas par cas.
Exact, c'est ça. Je pense
c'est que probablement que tes parents devaient voir en toi une maturité, un vrai désir de pratiquer ce métier, un feu qui, tu sais, t'en faisais déjà de la radio, tu sais, à ce moment-là. Fait qu'à un moment donné, c'était pas je veux aller à New York et faire telle. C'était comme c'était crissement aligné avec ce que t'avais démontré. Qui fait que je pense que c'est tellement du cas par cas, mais ouais. ce qui me semble cool, c'est juste la manière qu'ils t'ont posé la question.
Ouais.
Plutôt que de t'éteindre, ils ont ouvert une nouvelle porte. Ouais. Enfin, est-ce que tu as regardé par là?
Mm.
Est-ce que tu savais qu'il y avait ça aussi dans ce paysage-là?
Ouais.
Tu sais, c'est ce qui est super cool.
Ouais.
Moi, tu vois, mes parents étaient comme, ado, tu vas aller en sciences, santé. T'es bon à l'école, puis tu sais pas quoi faire.
Ouais, je comprends.
C'est ça l'affaire.
Ouais, je comprends.
Puis, sur le coup, je sentais que c'était brimé. Que j'étais brimé. Mais je suis allé. Fait qu'en quelque part, j'étais pas comme, hey non, ça va être ATM, puis ça va être ça. Puis j'avais aucune. Encore une fois, je suis pas prévoyant. J'ai pas visité de cégep. J'ai pas lu sur les. Je savais rien. Moi, on disait science santé, science humaine. J'aime bien le mot science dans les deux. Il doit y avoir des cours de science dans les deux. J'étais cave comme ça, t'as donné une idée où j'en étais. Ouais. Que fait que. Heureusement que mes parents, à ce moment-là, ont fait comme... Aujourd'hui, je suis capable de dire ça. À ce moment-là, ça a été un beau petit fiasco. Mais ils ont fait, « Hey, dude, va faire ça. » Puis je me suis pété à la gueule. Puis ça a fait qu'on dirait, je me suis relevé, puis j'ai fait, « OK, ben là, c'est en or et lettres que
qu'est-ce
je
vais qu'est-ce que aller. J'aime pour vrai, ouais.
Exactement. Ouais. Mais là, j'étais décidé. Ils ont fait, « Parfait, dude. Of course. Ben oui, vas-y.
Mm. »
Mais là, je leur ai dit quelque chose. Je leur ai dit ça, là où je voulais aller. Même affaire, quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'était à ce moment-là, c'était au cégep. Puis là, ben, j'aimais ça. Puis là, ben, à un moment donné, c'était comme... mais j'étais pas bon. Fait que là, c'était comme... Ils me supportaient au bout. Mais encore une fois, ils l'ont dit de manière un peu comme tes parents l'ont dit. T'es-tu conscient que... Fait qu'ils étaient comme... Tu sais, ma mère était fucking sweet. Elle était comme, ben, regarde, il y a des cours du soir à l'école de l'humour. Tu veux-tu t'inscrire à ça? Puis tu sais, t'es encore jeune. T'es 16, 17... Tu pourrais peut-être aller à l'université avant. Tu sais, on pourrait peut-être voir, il y a peut-être des trucs en écriture. Peut-être que ça pourrait t'aider. Puis tu pourrais peut-être aller à l'école de l'humour après. Mais là, tu sais, encore une fois, très ouverte dans le dialogue. Même si à ce moment-là, je le voyais peut-être pas comme ça. Mais la journée où j'ai fait, hey, je vais m'essayer à l'école de l'humour.
Ouais.
Puis que c'était une affirmation. Ils ont fait,
hey, go man, for it.
Let's go. On va te donner le 50$ d'inscription. Puis.
L'important, en fait, je pense que ce qui. Porte ma réflexion par rapport à tout ça, c'est de comprendre que... Puis après ça, je dis de comprendre. Qu'à mon avis, même si l'idée, c'est de rêver le plus grand possible puis de toucher à tes rêves, on est dans la réalité. C'est juste ça, je pense, mon point. Puis je pense que l'idée, c'est... c'est quand t'arrives à ce rêve-là. Là. Mettons, toi, ton rêve, là, c'est de devenir un humoriste connu. Là. Quand t'arrives dans le rêve, il y a une réalité qui vient avec. Puis moi, je pense que c'est plus ça. Tu vois, c'est 100%. Là, je suis en train de faire des généralités de mes propres réflexions puis de tirer de ma propre personnalité.
J'adore parce que pendant que tu parles, on
suit, moi. Tu vois, ça, tu vois, c'est une affaire que je serais chez nous, je serais comme... Ouais, mais là, c'est ça.
C'est ça, on suit ce que tu dis dans ta...
Attends, non, c'est ça. Je dis ça parce que c'est moi qui le pense, en fait, parce que sinon, au bout du compte. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important d'avoir de la lucidité par rapport aux choix qu'on fait, même si ces choix-là sont alignés vers un rêve qu'on considère comme impossible. C'est juste d'être conscient que il y a une réalité qui vient avec le fait même d'accomplir et de toucher ses plus grands rêves.
J'écoutais cette semaine un special de Tom Segura, qui est un humoriste bien sympathique. Je pense que c'est dans Ball Hog, son dernier, ou l'autre d'avant, qui est Disgraceful, je me souviens pas, parce que j'ai écouté les deux, mais c'est dans un des deux où, justement, il est comme... Il parle de ça. Comment quand il a dit à sa mère qui est péruvienne, immigrante aux États-Unis, et tout ça, quand il a annoncé « Ah, je vais aller à LA pour faire du stand-up », elle a répondu « You should go to the post office ». Puis t'es comme, ah quoi, il y a des shows là-bas? Et comme, non, tu pourrais être, tu sais...
Un mailman.
Puis il dit, depuis ce temps-là, lui est devenu un encourageur de rêve. Il est comme, ce que tu veux faire, je vais t'encourager. Et comme le seul conseil que je vais donner, si tu veux suivre ton rêve, c'est que si t'es prêt à accepter la possibilité que ton rêve ne se concrétise pas, tu vas être heureux juste d'essayer de t'y rendre.
Voilà.
Et j'étais comme...
Ben, c'est la plus belle chose, en fait. Ça résume encore mieux tout ce que j'essaie de dire depuis tantôt. Qui est une réflexion qui est tronquée. La réalité, c'est ça, en fait. Puis je pense que c'est pour ça que, à la toute fin de ma réflexion, j'ai dit que, dans le fond, c'est tourné vers moi. Parce que moi, si j'avais pas atteint, si j'étais pas arrivé à faire quelque chose qui m'emplit, j'aurais été malheureux, j'aurais eu l'impression justement d'avoir été trahi parce qu'on m'aurait pas dit que ça se pouvait que ce soit que j'échoue. Mais j'imagine que pour certaines personnes, l'idée de suivre tes rêves, comme tu dis, c'est le fameux cliché, c'est le chemin même plus que la destination. Puis de juste d'avoir cette motivation-là, ça t'aide à passer à travers plein de choses. Puis ça fait que ça se peut que tu prennes des croches puis que la destination soit pas la même que celle que tu t'étais fixée au début, mais que ça en soit une totalement satisfaisante. Puis au bout du compte, jamais, là, quand j'avais 17 ans, j'aurais pu te dire, moi, là, ce que je veux faire dans la vie, c'est faire de la radio musicale, c'est jouer avec mes machines, être DJ. Nan, nan. C'était pas ça, j'avais pas cette conscience-là, j'avais une idée globale de ce que j'avais envie de faire. Fait qu'au bout du compte, je me rétracte un peu. Suivez vos rêves. C'est ça l'objectif. Suivez vos rêves, mais acceptez de digresser de ce chemin-là selon ce qui va vous être amené.
Ben, puis en plus, en fait, là, c'est. Puis c'est Jim. Il y a plein de monde qui dit ça, mais tu sais, Jim Carrey dit entre autres, il était comme I wish everybody could become rich and famous to realize that's not the answer. Puis c'est ça qui est fascinant. Mettons, moi, là, quand. Ça a commencé par l'acceptation à l'école de l'humour. Mais juste de faire l'audition. Ça, je me souviens du feeling de faire « Oh my God, je suis en train d'essayer ça. » Pour ça, l'école de l'humour était difficile pour moi parce que je respectais... C'est confrontant d'essayer son rêve puis de réaliser que t'es pas bon parce que t'es pas bon au début.
T'sais, comme n'importe qui dans n'importe quoi.
Si t'écoutes The Last Dance, Michael Jordan, au début, à l'université, c'était pas le meilleur.
Exact.
Mais c'est ce qui a fait qu'il est devenu le meilleur. C'est qu'il s'est vu ne pas être le meilleur, puis il y avait cette petite maladie mentale aussi, peut-être. qui a fait que...
Obsessif much.
Exact, tu sais. Mais je peux comprendre. Puis moi, tu vois, après ça, ce qui est fascinant, puis ce que j'essaie de me rappeler, parce que c'est difficile, parce que le contexte change.
Ouais.
Le contexte dans lequel j'étais quand je pratiquais, quand je faisais de l'humour, mais que j'habitais chez mes parents, par rapport à aujourd'hui, j'ai beaucoup plus à perdre, en gros guillemets, ici, dans ma tête. Alors que techniquement, c'est un peu la même affaire où c'est comme, hey man, tu fais ce que tu veux, tu sais. Puis ça va vite. Fait que même quand, des fois, au dé, il y a de quoi qui me fait chier, j'essaie de me rappeler que, hey man, à un moment donné, je vais avoir 64 ans, m'a été invité sur un plateau de tournage, puis on va me sortir des images de mes saisons d'OD, puis le feeling qui va m'habiter, ce sera pas « Ah, te souviens-tu la fois où ça t'a fait chier? » Ça va être comme « Oh my God, man! » J'ai fait 5 saisons de OD, j'ai fait 3-4 continents. Quelle hostie de chance!
Exact.
Hostie qu'on a ri, c'était tellement le fun, te souviens-tu de telle affaire, telle fois... Ça va être tout le bon. Puis évidemment, encore une fois, c'est l'espèce d'équilibre entre la lucidité puis la chance. Tu sais, l'espèce de... Faut pas te freiner. Faut en être conscient, mais en même temps, faut être ambitieux. Puis tout ça, c'est de trouver une espèce d'équilibre là-dedans. Mais c'est de faire... Hey man, moi, quand je repense à mes années où j'animais dans les bars, les soirées d'humour, là, prime time de ma vie, man. Puis j'en ai eu des soirées de marde où il y a pas grand monde, où c'est pas très bon, où il y a un humoriste qui choke, tu sais, mille affaires qui arrivent. Je dis de quoi que ça refroidit la crowd, je vis de la honte, nanana. Mais en même temps, moi, quand je pense aujourd'hui à 2014, à 2017, 2013, peu importe, je suis comme, oh my God, man, c'était tellement le fun. Hostie qu'on a ri. Puis je me souviens de la romance de regarder mes amis essayer des jokes devant du monde qu'on connaît pas, qui ont payé avec du change pour rentrer dans la pièce d'un bar trop chaud, trop de monde qui boivent de la bière correcte.
Ah ouais.
Mais que finalement, c'est comme tout ça, c'est magnifique. Tu sais.
C'est deux affaires importantes. Être capable en introspective de jeter un regard à la fois lucide et lumineux sur ces situations-là qui, dans le micro, n'étaient pas tout le temps parfaites, mais qui, globalement, dans le macro, sont extraordinaires puis nous ont nourris. Puis c'est important aussi d'être capable, comme tu le dis, de sortir de son corps dans le moment présent, t'sais, quand tu es en train de faire quelque chose, puis juste prendre 2 secondes pour faire « Ouh, c'est nice! »
Mais ça prend beaucoup de discipline.
100%.
Parce que c'est naturel de plier au stress ou de... Tu sais, tu fais de la radio live à tous les semaines, tu sais, dans le sens où... faut que ça y aille, faut que ça marche, faut que ça rentre, faut que tout fonctionne, faut que ce soit beau, faut que ce soit clean, faut que ça s'entende bien, faut que t'as des boss, t'as des auditeurs, t'as toi, t'as ce que tu souhaites, t'as tes collaborateurs, ton réalisateur, ta réalisatrice, ton équipe. Tu veux plaire à tout le monde, tu veux te plaire à toi, tu te mets de la... T'sais,
c'est fou, ça.
Mais moi, ça a été ça, là, tu sais, le live... avec lequel on a commencé la saison d'OD l'année dernière. C'est une hostie d'affaires. C'est comme, man, tout peut t'arriver. Ouais. T'sais. Et cette journée-là, j'ai eu la chance d'avoir une journée assez bien organisée qui a fait en sorte que j'ai eu le temps d'avoir la réflexion de faire... C'était ça le but, un peu. Je vais être une heure live à la télé en train d'animer. À ce moment-là, là, ça a donné que c'était un lundi soir donc il n'y avait pas tant de choses à la télé.
Ouais.
Ce soir-là, c'était comme le plus gros show à télé au Québec. Là, je suis comme, évidemment que c'est stressant. Mais en même temps, c'était ça le but.
C'est un privilège.
Quelle chance! Puis c'est ce qui a fait que j'ai fait comme, OK, j'ai pu l'écrire. Puis qui a fait en sorte que j'étais comme, OK, ben. Puis j'ai juste assez d'expérience, du moins dans ce contexte-là. Mm-hmm. J'ai encore 1000 affaires à apprendre. J'avais juste assez d'expérience pour, là, soudainement, être la personne qui rend les autres à l'aise.
Ouais.
Faire, hey man, ma réalisatrice, c'est la première fois qu'elle réalisait un live. C'est comme, Audrey, I got you. Comme, qu'il y ait n'importe quoi, tu me le dis dans l'oreille, je fais du temps, je suis là.
Exact.
Tu sais? Puis là, ben, de rendre les candidats, candidates à l'aise, faire des jokes entre les pauses. Hey, ça va bien, nanana. Mm. De faire comme, astique, c'est le fun. Ou, mais je me souviens, mon premier tapis rouge, où j'ai braillé dans mon char après, parce que j'étais terrorisé tout le long et que j'ai juste contrôlé cette peur-là. Et c'est après que j'ai fait... Asti, j'ai eu peur en tabarnak, là, t'sais. C'est...
Ouais, puis après ça, c'est ça. T'sais, des fois, c'est non seulement d'avoir peur, mais d'à ce moment-là, pas avoir les outils pour relativiser cette peur-là ou relativiser cette anxiété qui arrive à posteriori. T'sais, moi, je me souviens aussi, c'est la chose dont il a fallu que je me départisse le plus rapidement possible. T'sais, c'est... la suranalyse d'après-match de peu importe ce que je faisais dans la sphère publique.
Parce que tu me sembles être quelqu'un quand même aussi de très assidu.
Très assidu. Moi, je viens d'une école de la rigueur, de la préparation, du travail. Puis c'est de là que les plus beaux hasards, les plus beaux moments de spontanéité peuvent surgir dans mon travail à moi. T'sais. C'est ça l'école dont je viens, c'est ça la façon dont j'ai bâti ma carrière. Puis je pense pas que j'aurais eu ou travaillé autant, n'eût été de cette façon-là que j'ai d'aborder mon travail. Mais ça vient aussi avec... Ça venait plus avec une énorme pression que je me mettais sur les épaules de pas faire d'erreur. Ça arrive pas faire d'erreur de toute façon. Ça fait que... Fuck that. Puis maintenant, tu sais, je dirais que j'y réfléchis plus ben à l'idée à l'idée d'échouer. Tu sais, dans le moment présent, là, tu sais, l'idée de faire... Là, je parle particulièrement quand je vais faire quelque chose, par exemple, à la radio.
Ouais.
C'est vraiment rare que je vais me lancer dans quelque chose puis que je vais réfléchir. Ah, oh, mon Dieu, oh, j'ai raté ça. Mais ça, c'était pas très bon. Moi, ça, c'était... Parce que ça, c'est une spirale. Puis je me souviens qu'avant, tu sais, s'il se passait quelque chose, que je m'enfargeais, par exemple, ça me suivait jusqu'à la fin. Pas capable de m'en départir, puis ça teintait, non seulement ça, je sais même pas si ça teintait ma performance, mais ça teintait en tout cas le plaisir que j'avais à faire la chose. Aujourd'hui, honnêtement, tu sais, c'est pas que je m'en fous, c'est pas que je suis détaché par rapport à ce que je fais, parce que je me prépare toujours autant, puis j'essaie d'être dans un environnement qui est le plus confortable pour moi puis pour les gens autour de moi, puis qui est le plus satisfaisant avec les intentions que je vais amener à un projet ou au show de radio, tu sais, le rythme, le ton, la rigueur, l'échange, machin. Mais au bout du compte, s'il y a quelque chose qui va mal, il y a quelque chose qui va mal, puis c'est tout.
C'est pas si grave. C'est l'expérience.
Absolument.
Tu sais, ce qui est le fun, c'est-tu Childish Gambino? C'est qui? Je pense que c'est Childish qui avait... Non, c'est Pharrell qui avait... J'ai lu cette quote récemment. Je pense que c'est Pharrell qui a donné ça, qui a dit ça en conseil. Je me souviens pas à qui. C'est-tu Tyler, the Creator? Ou... En tout cas, mais Pharrell avait dit « You need to get older, but not old.
Ouais. » Le porte-étendard de cette citation, c'est clairement Pharrell. Autant dans sa façon d'être... ingénieux puis d'incarner le progrès que dans sa face qui vieillit pas. Honnêtement.
Tu checkes les premières images de Neptunes puis pour vrai, s'il y a pas de date, tu fais « Ah, t'es prêt la semaine passée. »
Ouais.
Mais il y a un peu ça, l'espèce...
100%.
Ça revient à ce que tu disais tantôt, en guillemets, quand tu parlais des vieux, en guillemets, là, de trouver le juste milieu. Puis je pense que moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre le plus, ce qui est difficile parce que la fougue de la jeunesse est extraordinaire. Moi, c'est mon plus grand moteur, c'est que je suis un petit peu innocent, qui fait que je fais des affaires qui, des fois, après coup, je regarde et je fais « Tabarnane, on a fait ça, c'était comme... » J'étais donc ben pas conscient.
Ouais, ouais.
Et heureusement que je l'étais pas tant que ça, parce que sinon, ça m'aurait ben trop figé.
Ouais.
Mais après ça, l'expérience, ça ne s'achète pas.
Ben non.
Qui fait que j'ai tout à apprendre de n'importe qui a plus d'expérience que moi. Puis là, ben, c'est de trouver le juste milieu, parce que je pense que les gens d'expérience, du moins, je souhaite être la personne qui est capable d'avoir de l'expérience, mais qui demeure ouverte aux idées de la jeunesse puis à la fougue de la jeunesse, puis d'être ouvert à ça.
C'est un exercice de tous les instants, je pense, pour n'importe qui reste pertinent dans son époque, de se poser la question, est-ce que mon expérience me dicte que je dois refuser cette idée-là qui vient, je sais pas, d'une génération inférieure ou plus jeune à la mienne, ou est-ce que c'est mon orgueil ou mon ego de personne d'expérience qui se refuse à donner de l'importance à la parole d'une personne plus jeune. Je pense que les gens qui continuent à rester constamment pertinents puis qui continuent à avoir l'admiration de gens d'une génération ou deux générations qui sont sous la leur, mais c'est des gens qui s'entourent de ce monde-là puis qui sont capables, comme tu le dis, de trouver l'équilibre entre c'est quoi mon instinct, qu'est-ce que mon instinct, mon expérience me dicte, puis qu'est-ce que cette affaire-là que j'avais pas vu venir peut apporter de neuf comme risque ou comme instabilité. Parce qu'en fait, c'est ça, tu sais, qui fait qu'on reste vivant. C'est que t'injectes une partie d'instabilité dans un contexte contrôlé, je pense.
Ouais. Ouais, ouais, absolument.
C'est ton pourcentage d'instabilité qui fait que. Puis c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, Colin.
Ouais.
Pour ça que ça reste excitant. Mais sinon, si j'arrivais chaque semaine à faire la même affaire tout le temps, du point A au point B, puis que je me posais jamais de questions sur comment ça va se produire, puis comment on va se rendre au bout. Je pense que je serais malheureux. Sinon, pourquoi on fait ce métier-là au bout du compte?
Absolument. Absolument. Moi, je sais aussi qu'il y a, vraiment quelque chose. Justement, ce matin, quand j'écrivais que j'ai confiance en moi, mais j'ai une estime personnelle fragile, il y a quelque chose là-dedans aussi qui je comprends pourquoi je pratique ce métier-là. Mais en même temps, je peux aussi trouver des arguments qui disent comment ça se fait que je pratique ce métier-là si justement, pour moi, c'est difficile, ici en gros guillemets, là, de montrer vulnérable. Dans des conversations, je suis à l'aise, mais dans la pratique, j'aime pas quand on me voit ne pas être bon. Et naturellement, ben, quand tu commences à faire du stand-up, quand tu commences à animer à la télé, quand tu fais un métier public, quand tu commences n'importe quoi, t'es pas bon, tu sais. Et ça m'a... Mon métier, on dirait, m'aide énormément à cheminer sur plein de ces petits défauts ou caractéristiques de ma personnalité. Est-ce que il y a des affaires pour toi comme ça que tu fais... Voyons que... On dirait que mon corps savait que c'est vers ce métier-là qu'il fallait que j'aille pour pousser cette affaire-là ou pour me rendre inconfortable et réussir à rendre ça confortable.
Moi, en fait, je pense que au bout du compte, ce dont je me rends compte, c'est que vu ma personnalité instinctive, si je faisais pas ce métier-là, je parlerais pas. Tu sais, pas je parlerais pas, mais je serais beaucoup moins vocal sur bien des choses. Tu sais, de faire ce métier-là, puis d'avoir un contexte dans lequel créer un échange avec des gens que je connais puis des gens que je connais pas, c'est extrêmement nourrissant. Puis ça me sort de je pense, qui je suis intrinsèquement. Tu sais, à la base, je pense que je suis une petite bête plus ou moins sauvage, en tout cas plutôt solitaire, relativement... introverti, tu sais, puis je l'ai souvent dit, mais moi, j'ai pas beaucoup de... Puis il y a 7 ans, j'avais interviewé même... Moi, 7-8 ans, j'avais interviewé Claude Pelgag, puis elle m'avait dit, moi, j'ai pas de fonction fatigue. Puis j'étais comme, fonction what? Puis la fonction fatigue, c'est comme la capacité à parler de la pluie et du beau temps, puis d'entretenir des conversations, tu sais, triviales, qui permettent de lancer une interaction sociale. Puis quand elle avait dit ça, j'ai fait, man, c'est exactement ça. T'sais, pis je veux dire, ça se peut pas avoir de fonction fatigue, mais c'est pas avoir d'impulsion de l'engager. Quand elle avait dit ça, j'étais comme, c'est exactement ça. Moi, j'ai pas tant ça dans la vie, la capacité à arriver puis à faire, hey, ça va, nanana. Je suis tout le temps un petit peu en train de me demander où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tu comprends? Mais là, je suis dans un contexte où quand je suis devant un micro avec quelqu'un que je connais pas pour la première fois ou quelqu'un que j'ai au téléphone ou que je rencontre un artiste ou que je joue sa musique, ou je suis dans un contexte où il y a un purpose à l'échange. Il y a un purpose à ce que j'ai à dire aussi à propos de cette personne-là. Puis comme ça, se crée le lien pour moi avec des gens. Puis tu sais, moi, je deviens pas rapidement ami avec le monde en général. Mais grâce à mon travail, je peux dire que je crée des liens vraiment, vraiment le fun avec le monde. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant, par exemple, faire des entrevues. Puis j'aime autant, tu sais, parler à des artistes qui sont en début de carrière, puis pas me limiter à faire. Fait que, parle-moi de toi, tu viens d'où, tu fais quoi? Moi, je vais faire mon travail avant, puis je vais te poser des questions qui vont te permettre de sentir que j'ai un respect pour toi, puis qui vont te permettre de t'exprimer, puis d'exprimer des vraies réflexions. Parce que si t'es un artiste, que t'as 22 ans ou 70 ans, il y a un moteur quand même qui est derrière ça. T'as pas écrit 9 tunes en étant juste « si j'aime ça jouer de la guitare, j'aime ça chanter », c'est pas vrai. Il y a eu un moteur derrière ça. Puis moi, j'aime ça avoir ces conversations-là. Fait que bref, je pense que, je sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, l'idée de mon métier, c'est de donner un contexte à des échanges que j'ai envie d'avoir. Puis après ça, ça facilite l'échange humain. T'sais. C'est comme si je prenais les choses un peu à l'envers. Je sens pas que j'ai besoin d'être ami avec quelqu'un pour avoir des conversations qui sont sensées, qui sont senties, puis qui puisent dans de la vraie matière.
Fait. Oui, mais ça résonne tellement pour moi. Ça résonne vraiment. On dirait que... Je trouve ça... Je trouve ça super intéressant parce que moi, j'ai l'impression que c'est différent, mais similaire. Mm. C'est-à-dire que je pense que je suis quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'attention.
Ouais.
Mais pas tant dans ma personnalité. Je sais pas comment le dire.
Non, je pense pas que c'est un besoin... Puis là, je transforme en psy. Je pense pas que c'est un besoin d'attention. Mais tu sais, tantôt, tu disais... il y a aussi beaucoup de raisons pour lesquelles je devrais pas faire ce métier. Puis je me pose la question, pourquoi finalement je fais ce métier-là? Puis je pense que c'est la même chose autant pour toi que pour moi. C'est que à quelque part, à plus ou moins grande échelle, on a un besoin de validation. Puis c'est pas un besoin d'attention nécessairement, parce que moi, je crave vraiment pas l'attention. Une des raisons pour laquelle, tu sais, je gère pas beaucoup, tu sais, mais tu vois pas beaucoup ma face sur les réseaux sociaux, ouais. Tout ça, tu sais, puis j'aimerais ça être capable de faire ça, mais l'attention me fait un petit... Non, me fait pas peur, mais je suis moins à porter naturellement à montrer ma face sur des plateformes comme ça. Mais j'ai quand même, à travers mon travail, forcément un besoin de validation. Tu sais, j'ai besoin, à quelque part, de nourrir le monde puis de me faire dire merci pour la bonne bouchée que tu m'as donnée.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pis on est de même.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça m'a calmé.
Ouais.
Parce que je pense qu'avant, je me définissais vraiment comme quelqu'un de sociable. Mm. Je pense que je le suis encore vraiment, mais de manière très différente. Ouais. Donc, beaucoup plus axé, comme toi, à des conversations comme on a, toi et moi, en ce moment, le plus souvent possible. Puis pas que je les force.
Non, non.
Mais je réalise que... puis je sais que tu as déjà dit ça aussi, que t'sais, notre small talk n'est pas si petit, là, t'sais, dans le sens où...
Exact.
Mais c'est ça, on dirait que j'avais une perception de moi qui n'était pas celle-là. Mm. Et finalement, je me découvre, puis je suis comme, oh mon Dieu, mais je suis beaucoup plus calme que ce à quoi je m'attendais. Puis je pense que ça a beaucoup rapport avec ça, parce qu'on dirait que mon besoin de validation a été comme boosté.
Ouais.
Puis j'ai réalisé, ah ouais, non, c'est ça, c'est de la barbe à papa. Là. C'est, je veux dire,
ben oui, c'est ça.
C'est un peu du vide. Puis qu'est-ce que t'as à refaire?
Tout le temps.
T'es constamment à refaire, tu sais. Puis je trouve que pour ça, l'humour, j'aime ça parce que c'est difficile, entre guillemets, là, ouais. Dans le sens d'écrire des jokes. Puis c'est vraiment vulnérabilisant. Puis en même temps, tu veux que ce soit sincère. Tu veux pas que ce soit facile. Tu veux que ça te ressorte. Mais en même temps, c'est ça, c'est que c'est comme... C'est un nouveau puzzle à chaque fois que tu veux essayer des nouvelles jokes. Fait que c'est, je trouve que ça... J'ai la difficulté à comprendre les humoristes qui se la pètent parce que je fais « Man, comme ça va être à refaire. »
Ouais. Mais ça, je pense que c'est une question... Probablement que c'est une personnalité... C'est soit une personnalité de base, soit une rétroaction d'un manque du passé. Là, ou pas une rétroaction, mais une expression d'un manque du passé. C'est-à-dire des gens qui ont... peut-être toujours eu ce besoin d'attention-là qui a jamais été comblé, puis soudainement, les projecteurs sont tournés vers eux, puis ils peuvent dire, puis faire ce qu'ils veulent, puis avoir l'attention dont ils ont besoin, puis être laissés off the hook 90% du temps, puis ils sont comme, dude, je peux faire ce que je veux, puis enfin, je peux être ce que j'ai toujours imaginé que je devrais être dans ma tête, mais qu'on m'a jamais autorisé à être parce que j'étais... X, Y, Z quand j'étais plus jeune, puis soudainement, c'est comme bang, all out. Mm. Tandis que c'est, non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai.
On a tous des, je pense que si je te dis ça, on a des images dans notre tête, mais il y a aussi l'idée de, ça revient à notre privilège, t'sais, d'avoir évolué dans un milieu sain, avec des bons parents, avec avoir connu l'amitié aussi, tu sais, pendant toute notre vie, avoir connu la sécurité, savoir qu'on est assez pour le monde qui est autour de nous, puis particulièrement pour les gens les plus près de nous, puis savoir qu'on n'a pas besoin d'être une autre version de nous-mêmes pour recevoir de l'amitié, de l'amour puis de l'affection. Mais c'est un privilège, pour vrai, ça.
Mm-hmm. Vraiment.
Moi, c'est comme ça que je me sens aussi, tu sais. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même si on passe tous par des moods, là, d'un point de vue personnel, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me sens à l'aise dans le fait de me dire « Hey, moi, c'est comme ça que je suis socialement, c'est comme ça que j'aime les gens, c'est comme ça que je veux développer mes relations, puis je sens pas que j'essaie de combler ou d'être quelque chose d'autre que ce que je suis. » Tu sais, on m'a appris que ce que je suis suffit.
Ce qui est
quand même un une grosse chance.
Ah, ce qui est grandiose. Ce qui est grandiose, parce que ne pas se sentir suffisant, c'est vraiment nocif, c'est très, c'est drainant, c'est puis moi des fois c'est là aussi des fois je me trouve chanceux parce que je réalise que autant je suis quelqu'un qui peut culpabiliser ou qui veut plaire, autant je suis pas vraiment capable d'aller contre ce que j'ai envie d'être.
C'est ça.
Fait qu'il y a une espèce de c'est ça. Je vais bougonner, mais je vais finir par faire ce que ça me tente.
Regarde, c'est ça le chemin. Non, mais c'est vrai quand même, quand on pense à ça, tu sais, y a-tu quelque chose de pire dans la vie que de se sentir inadéquat?
Ah, crème.
Moi, mes plus grosses déceptions professionnelles, mes plus grosses blessures professionnelles et personnelles, ça vient du fait de m'être fait dire ou d'avoir senti que j'étais inadéquat. Mais pas comme ton travail est inadéquat, comme ta personne est inadéquate pour le contexte dans lequel on est. Ça, c'est blessant. Ça, je pense que c'est les affaires qui doivent laisser le plus de marques. Puis quand ça t'arrive dans un contexte où tu es exposé à ça, à l'âge adulte, c'est une affaire. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, quand tu as été exposé à ça, contre ton gré, pendant que tu étais en période de développement, ça se peut là, que tu t'en remettes pas, ou ça se peut que la version adulte de toi-même soit le produit de tout ça. Là. Ça excuse rien, on s'entend.
Mais c'est qu'une fois que tu es adulte, ça devient ta responsabilité, 100%. Ce qui est difficile parce que ça ne l'était pas au départ et ça le devient parce que tu deviens un citoyen.
Tu sais, 100% d'accord.
Qui participe à la société. Mais je suis d'accord avec toi que... Puis après ça, c'est ça qui est le fun aussi d'apprendre à connaître les gens. C'est que tu comprends pourquoi... Ils agissent pas de la même manière, de la manière que toi, tu aurais agi, mettons. Ce qui fait que naturellement, le jugement qui peut monter en toi envers quelqu'un, c'est souvent relié à une incompréhension d'une réaction.
Ouais.
Mais quand tu vois le backstory un peu, c'est comme, ah, j'aurais pu le prévoir.
Sauf que moi, je trouve que je pardonne moins aujourd'hui, tu sais, les excès de toutes parts de gens que je vais rencontrer en ce moment, dans le présent, pas dans le présent, en tout cas. Là.
Ouais, ouais.
À un moment donné, on va finir. On comprend le contexte. Tout le monde comprend le contexte, la gang. Parfait. On est en pandémie, on reste chez vous, 8 heures couché. Dodo. Dodo, tout le monde. Mais la réalité, c'est que je pardonne moins à des gens que je vais rencontrer aujourd'hui, que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Ces écarts de personnalité-là que je peux le pardonner à des gens que je connais depuis bien, bien longtemps. Puis je m'attends très sincèrement à la même chose des autres, tu sais. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on apprend à connaître les gens, puis que si on a bien fait les choses, on garde des gens de plusieurs cycles de nos vies jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est ça. Puis qu'on va accepter certaines affaires qu'on n'accepterait pas aujourd'hui. Mais en tout cas, je m'exprime mal, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que moi, mes plus grandes amitiés, elles sont là parce que je comprends pourquoi t'as cette réaction-là qui est dans l'absolu démesurée par rapport à la situation. Mais tu sais, si je te connais pas puis que t'as cette réaction-là, je vais comme faire « wow ». Malheureusement, ce sera pas pour moi. Mais moi, je suis là aussi pour être capable de désamorcer cette affaire-là parce qu'on se connaît depuis longtemps. Puis c'est important d'avoir ces gens-là autour de soi qui nous protègent de nous-mêmes et des autres à certains égards.
Mais puis c'est tellement puissant lorsque quelqu'un t'aime dans tes moments les moins beaux.
Ben oui.
C'est exactement l'inverse, en fait, de se sentir inadéquat, j'ai l'impression. Puis dans ma tête, ça peut laisser des marques aussi puissantes d'un bon côté.
Ouais.
C'est-à-dire que quand quelqu'un t'aime, on va dire malgré tes défauts, là, il sent de gros guillemets, là, ce ne sera pas malgré, ça va être il t'aime tel que tu es. Et de traverser... D'être conscient de ça et de recevoir ça, et de se permettre de recevoir ça, c'est très fort ça aussi, tu sais, de se sentir aimé complètement, c'est vraiment puissant, tu sais.
Tellement. C'est la... Tu sais, dans le fond, là, j'essaie de ne pas faire une grosse phrase de généralité sur un temps d'émotion dégueulasse, mais... Tu sais, ça reste la seule chose qui importe au bout du compte. Malgré tout, tu sais, moi, si tu me dis, hey, je te donne tout ce que tu veux professionnellement, mais. Puis, je vais le faire nuancer, tu sais. Tu es dans une relation correcte. Tes parents sont smart, mais tu sais. C'est ça. Tes amis, ben, t'as des amis du milieu, là, t'sais, du monde avec qui tu chilles, mais t'sais, rien de plus. Tu le prends-tu? Oh, hell no.
Fuck that.
Parce qu'est-ce qui arrive au bout du compte? Qu'est-ce qui te reste, là? Parce que, t'sais, c'est aussi ça, là. Je sais pas si t'as cette réflexion-là, mais moi, parfois, quand ça va mal dans le présent, je me dis, hey, je penserai plus à cette affaire-là quand je vais avoir ne serait-ce que 50 ans. Mm. Puis qu'est-ce qui va m'importer à ce moment-là?
Mais puis ça, le pire, c'est que moi, ce que j'aime, puis je pense que toi, moi, là-dessus, on, en tout cas, du moins, t'as mentionné qu'on était probablement similaire, c'est qu'on est en mode solution.
Ouais.
Qui fait en sorte qu'il y a des actions, somme toute, concrètes, même si ça se passe dans notre corps, mais on va travailler nos pensées. Ouais. Nos pensées sont pas la vérité.
Non.
Qui fait que tu peux avoir des pensées qui sont dures, tristes, whatever, mais qui sont pas nécessairement, qui ont raison d'être, peut-être basées sur le contexte dans lequel tu es, mais qui sont pas la réalité. Qui fait que on va tomber en mode solution par rapport à ces pensées-là. On va essayer de les contrôler, de les restreindre, de faire « Hey, attends, on... » Puis c'est là où tout le monde n'est pas de même. T'sais. Et c'est là où ça devient comme un travail sincère à faire. Que de pas juste avoir ces belles paroles-là, mais de travailler pour vrai, à le sentir, de dire à ta blonde, hey, qu'on soit d'une grosse baraque ou d'un 3,5, on va être bien nous autres. C'est comme, c'est super cute, là. On dirait une toune de Caïn, c'est génial. Mais après ça, c'est comme, faut pas juste se le dire pour se flatter dans le sens du poil, de dire que ça va, mais faut comme.
Qu'est-ce qui arrive quand c'est la réalité?
On y va dessus, on se rend-tu à cette place-là où ce que. Tant qu'on a nous deux, we good. Puis ça, je trouve que c'est un travail qui est long, donc il faut être patient avec soi-même et avec les gens avec qui on partage nos vies, mais ça demeure un travail.
Ouais. Dans l'absolu, c'est la chose la plus confrontante dans la vie. Affronter ou opposer nos idéaux à la réalité de ce qu'on est ou de ce qu'on est prêt à faire ou de ce qu'on dit. Puis, moi, heureusement, c'est un exercice, je pense, que j'ai appris à... En tout cas, que j'essaie de faire le plus possible. Tu sais, est-ce que mes bottines suivent mes babines? Mais ça reste... Moi, je trouve ça extrêmement confrontant. Là. Parce que des fois, tu sais, je vais lire un truc ou je vais voir quelqu'un réagir. Je vais voir, ah, mais man, ça n'a pas de bon sens. Nanana. Qu'est-ce que moi, j'ai fait pour ou contre cette affaire-là? Comment, moi, j'agis dans ma vie de tous les jours en adéquation avec cet outrage que je vis en ce moment? Je vais être bien sincère. Probablement que 50% du temps, je fais... Dude, je fais rien.
Oui, c'était la semaine dernière, quand j'ai fait mon post pour les enseignants, le gars qui je voyageais l'année dernière, qui est un enseignant, m'a écrit « Hey man, c'était cool ton post, tu sais. Ça a bien circulé à l'école. C'est nice, tu sais. C'est nice que t'as fait ça. » Et naturellement, j'ai fait « Ah, ben tu sais, c'est gentil. T'sais, ma copine est prof. Fait que, on dirait que c'est j'avais comme une... Je voyais à travers la fenêtre votre réalité, puis je me disais que je pouvais peut-être essayer de partager mon point de vue.
Ouais, de prendre ton projecteur puis de faire...
Exact.
Pour aujourd'hui, ça va être
j'ai dit, lumière. Soit ça, ou j'avais besoin de validation puis de me... Tu comprends?
Ouais, je comprends.
Puis c'est là où je fais... Ça revient à faire des trucs concrets. Mm. J'ai juste écrit quelque chose chez moi. Mm. Qui a fait... Après ça, je verrai pas le bien que ça va faire. Fait que si ça fait du bien, tant mieux. Mais après ça, pour moi, je fais, c'était sincèrement la moindre des choses pour mon contexte actuel en ce moment. Mais j'arrête pas de me dire, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu sais?
Ouais.
Avec mes limites à moi.
Ouais, ouais.
Tu sais? Là, je prends l'exemple des enseignants, mais... Ça peut être pour mille autres affaires, tu sais.
Mais en même temps, tu fais cette publication-là. Comme tu dis, la seule chose que tu as à y gagner, c'est potentiellement de la validation. Puis même là, c'est discutable. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi accepter une belle impulsion pour ce que c'est.
C'est ça.
Une belle impulsion.
Là, je disais ça aussi un peu à la joke, mais en l'écrivant, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai eu pas peur de moi, mais j'étais comme, oh my God, tu sais.
Suis-tu en train de devenir cette personne-là qui récupère toutes les causes du moment pour se faire du cred, du street cred?
Exact, tu sais. Après ça, mais tu vois, encore une fois, je pense ça, là, tu vois, je jonglais avec la balle de la lucidité, probablement, parce que là, j'en parlais avec ma sœur, qui est ma gérante, puis elle était comme, d'où t'as souvent parlé des enseignants et des enseignantes. Là, tu partages ta vie avec quelqu'un qui pratique ce métier. Ça rapporte que t'as fait ça. Là, t'as pas juste pris la balle au bon pour, tu sais, mais... Puis après ça, il y a une partie de moi qui fait autant, j'aimerais ça, là, poster ça, puis passer à autre chose dans ma journée, puis pas stresser. Après ça, maintenant qu'on en parle, il y a une petite partie de moi qui est rassuré de savoir que j'ai cette réflexion-là. Il y en a.
Puis, réflexion à deux niveaux, là, d'avoir cette réflexion-là, puis de prendre le temps d'écrire quelque chose pour les enseignants, les enseignantes, first. Puis, deuxièmement, de te poser la question du pourquoi tu décides de prendre parole sur un enjeu X, Y, Z. Je veux dire, ça reste la base de ce qui devrait être fait dans le contexte de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais toi et moi, on sait très bien, puis on en a eu la preuve, je pense, particulièrement dans la dernière année, que c'est pas tout le monde qui va amener sa réflexion jusque-là, puis qui vont poser des gestes ou écrire des trucs parce que c'est le talk of the town ou parce que c'est la chose à faire globalement. Puis la chose à faire, c'est peut-être pas la chose que toi, tu dois faire. Puis si tu te poses pas la question, c'est un problème. Puis ça se peut que tu fasses la chose juste parce que tu penses qu'il faut que tu la fasses puis que finalement, ça soit la bonne affaire à faire. Mais ça se peut aussi que tu la fasses puis que tu la fasses pour des mauvaises raisons, que ça te revienne d'en face. Bref, ce que je veux dire, c'est juste d'avoir cette réflexion-là avant de poser un geste sur les réseaux sociaux. C'est golden. C'est la chose la plus importante, je pense. Mm. Puis ça se peut que des fois, tu fasses... Hey, j'ai décidé de faire 10 slides sur telle affaire, que tu te poses la question puis que tu fasses... Ah, finalement, si... Peut-être que c'est juste du bruit puis que c'est pas des paroles.
Ouais! Wow! C'est tout. J'adore.
Peut-être que c'est juste du bruit, pas des paroles. J'aime ça.
On fait du bruit, mon chum.
Oui, c'est ça, hein?
Ouais.
Les vendredis.
Mm-mm.
Ça, c'était avant.
Dans le passé. Dans le passé.
C'est un hostie de bon titre. Il me sort pas de la tête.
On était bien fiers avec Marc-Claude Bocage.
Marc-Claude Bocage qui est une OG. Là.
Mais, tu sais...
Une vraie de vraie gangster.
On peut en parler, là, tu sais. C'est, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Radio-Can en 2017, tu sais, moi, elle m'appelle et comme, hey, on auditionne des gens pour animer La Route des Vins parce que Patrick Masbourian, ça va faire autre chose. On auditionne une vingtaine de personnes. Je pense à toi, ça te tente-tu? Je suis comme, OK. Fais ça, commence à travailler avec elle. Tu sais, moi, j'arrive dans une institution que je connais de loin. J'ai fait quelques chroniques, mais tu sais, faire animer un show... Jamais on a cliqué comme ça. Là.
Hey, mais cool. Le mais peu que je connais d'elle est vraiment solide.
C'est des gens qu'on connaît pas parce qu'ils sont derrière la vitre en studio. Mais tu sais, Marc-Claude Bocage, c'est un des cerveaux de radio, de la radio publique du moins, qui est le plus prolifique et le plus efficace qu'on ait en ce moment.
Mais elle a parti toutes les gros shows.
Toutes. Les gros shows, la soirée, c'est plus on est de fou, plus on lit. Ça a été la première réalisatrice. T'sais, elle a développé des shows qui sont devenus des institutions.
Incroyable.
Un jour, elle aura son hommage.
Ben, en ce moment, tu y en fais.
Oui, non, je sais, mais tu sais, je veux dire...
Un gars-là, juste pour rire, hommage, Marc-Claude Bocage. Tout le monde est comme, hein?
Quoi? Puis au bout du compte, c'est juste des gens qui sont assis sur scène puis qui jouent des clips audio. Nasty de bon show.
C'était fucking bon, La Route des Vins.
On a eu vraiment du fun dans ces années-là. C'était, tu sais, en rétrospective, c'était les belles années. Mais tu vois, ça, je le dis souvent, c'était à cette époque-là, quand on l'a vécu, que ce soit La Route des Vins, que ce soit Fait du bruit, ça a été la première fois de ma vie que je suis embarqué dans un projet et que chaque fois que je l'ai fait, je me suis dit, je suis vraiment privilégié d'être ici en ce moment. Je reconnais ce privilège-là. Je le nommais souvent, je le vivais, mais je le nommais souvent.
Mais ça s'entendait.
Ouais.
Ça s'entendait dans vos émissions. Moi qui les suivais, là, puis je pense que c'est une des affaires aussi qui faisait qu'on revenait. Mm. Tu sais, c'est qu'on sentait cette espèce de... On sentait que vous étiez aussi admiratif de votre équipe que nous, on l'était, tu sais. C'était malade.
On le prenait pas à la légère, cet espace-là. On travaillait fort en tabarouette, puis c'est encore la même chose aujourd'hui. C'est juste que c'est dans un contexte différent.
Ouais.
Mais cette idée-là là, de reconnaissance, du privilège d'avoir un micro, ça me quitte jamais. Tu sais, Confidence. Moi, avant d'aller à mon show de radio, je m'envoie tout le temps tous mes papiers par courriel. Parce que, bon, je m'excuse pour l'environnement, mais moi, je peux pas travailler, mettons, sur un iPad. Faut que j'aille du papier, faut que je puisse griffonner. C'est comme ça.
Je suis pareil.
Puis je m'envoie mes textes par courriel, sur mon courriel que je, de Radio-Can, que je peux imprimer rendu au studio. Puis à chaque fois, je m'écris un message, puis je finis par « reconnaître le privilège ». Parce que je veux que la dernière chose que je lise avant d'imprimer mes affaires et d'aller en studio, ce soit de réfléchir, non pas à « faut que ce soit bon, faut que moi je sois... » Juste de faire « hey, tu t'en vas à la Radio Nationale pour une heure, quel privilège. » Puis ça me suit, ça m'habite, puis c'est ça, je pense, mon plus grand moteur, en fait, quand je suis au micro. C'est de me dire « tabarouette, tu sais, j'ai écouté cette radio-là depuis mon enfance, j'ai 33 ans, j'ai un micro national... » Puis je joue de la toune, c'est le plus grand privilège. Outre. Tu sais, à travers tout ça, c'est le plus grand privilège qui pouvait m'arriver.
Ça devrait être une phrase qu'on. Comme je vais la garder. Mm. Reconnais le privilège parce que c'est. Ben, ça, je pense que ça résume plein de choses qu'on a dit 100%. Aujourd'hui. Puis en plus, avec l'année qu'on vit, ouais. Je trouve que c'est vraiment une. On va souvent parler de bienveillance aux autres, puis de ça, puis il faut pas de l'empathie, faut pas. C'est fucking important. Mais justement, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui partent de nous, à commencer par reconnaître le privilège. Je trouve que c'est une phrase extraordinaire. Mm. Et je suis vraiment pas surpris que tu t'envoies ça avant chaque émission parce que t'es grand, Nicolas. Ouais.
C'est... Non, non, non. Non, non.
Il dit non.
Non. Non, non, je l'apprécie. J'apprécie que tu le penses, mais. Non, je sais. J'ai pas ce recul-là sur ce que je suis. Je sais ce que je porte. Je pense que je connais mon skill set assez bien. Je sais comment l'utiliser, mais je suis pas plus grand que moi-même. Là. Non.
Non, mais encore une fois, je trouve que tu jongles bien avec tout ça. T'sais.
Ben, c'est smart.
L'humilité,
c'est smart.
L'ambition, la lucidité, ouais.
C'est important de connaître sa place. Je pense que c'est plus ça l'affaire. Moi, je pense que je connais bien ma place dans ce que je fais en ce moment. Puis ma volonté, ce sera toujours de passer des pocs puis d'être un conduit, peu importe comment c'est, entre un bon produit puis une bonne personne, ou deux bons produits ou deux bonnes personnes. C'est ce qui me nourrit.
Man, faudrait que... Là, en ce moment, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire des shows, mais si à un moment donné, ça te tente, tu pourrais venir faire un DJ set avant
of course.
Un show, ce serait sick. J'ai envie de faire des shows, genre des genres de Jay and Friends.
Ouais.
Genre de show vraiment pow-wow, pas tant annoncer qui est là, pas tant faire « Hey, Nick mix pendant 45 minutes, une heure avant qu'on commence. » Puis ça, on embarque, puis toi, tu restes là, tu peux faire les...
Non, mais il faudrait que tu fasses, comme Chappelle le fait, l'été où j'étais à New York, où j'habitais à New York, un genre de résidence. Tu te pognes une salle, t'invites ton monde, humoriste, musicien, machin. C'est ça, là, c'était une grosse fête. Là. Ça serait malade.
Lui, c'était au radio aussi.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, mais tu peux prendre une salle. Là,
mais
un
oui, peu, le pire, c'est que. Mais c'est ce que je cherche. Là. Après ça, la pandémie a comme mis tout ça, pas sur la glace, parce que là, ça recommence à fondre, fait que ça recommence à se tramer. Mais oui, évidemment, Chappelle, c'est la grande inspiration de cette affaire-là, de faire « Hey, attends, là, moi, ce que je fais d'habitude dans la vie, c'est attendre d'une loge. Fait que comment je rends ça nice, tu sais? » Puis là, ben, vu que je veux écrire du nouveau matériel, oui, ben, au lieu de mettre la pression de faire « Hey, moi, tout seul, ça va être ordinaire. » Faire « Man, je vais commencer à coup de 15-20 minutes, je vais improviser avec la crowd, je vais jaser, je vais avoir des amis qui vont pouvoir me donner aussi des notes sur ce que je fais. » Puis je veux... au Centre Bell, Karim Ouellet a fait un DJ set avant... Et j'ai tellement aimé la vibe que ça l'a mis que j'ai fait « Ah, man, là, faut trouver le moyen de ramener ça, pas nécessairement partout, tout le temps, mais de faire « Hey, ne serait-ce que pour commencer. »
Ben oui.
Fait que, oui, je te...
Non, mais tu prends une salle qui, t'sais, de capacité inférieure à ce que tu peux driver comme monde. Tu prends plusieurs soirs, t'invites ton... Ça va être un hit, là.
Ah, ça va être cool. J'ai hâte, man. J'ai vraiment hâte.
I wanna be there.
Tu vas être là, man. Ça a été dit ici, puis on va le concrétiser.
On l'a sur le tape.
Nick, man, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Normalement, je peux le buster, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient, mais je pense que...
On la salue, je sais pas.
Moi non plus, mais je suis tellement... Je suis content de t'avoir vu.
Moi aussi.
Je me suis ennuyé de toi.
Moi aussi, vraiment. Je suis content. C'est très bizarre que les seuls moments où tu peux voir des gens à l'extérieur de comme ton environnement immédiat, c'est de même, mais je me sens privilégié. Quand tu m'as dit que tu voulais me réinviter, j'étais comme, je sais pas pourquoi, mais je suis carrément content de voir Jay, par
exemple. Même affaire. C'était, je reconnais le privilège de partager ce micro avec toi.
Merci, mon chum.
Keep it up, puis on se croise les doigts pour se revoir bientôt.
J'espère.
Cheers.
Bye!